Oxy Radio, web radio francophone, 100% libre.
D'abord, merci d'être venus aussi nombreux ce matin pour écouter cette conférence sur un sujet qui nous tient tous à cœur. Nous allons faire en deux phases. Une première phase, on va vous présenter un petit résultat d'une étude que nous avons menée. Donc, comme chaque année, à l'Epitech, on fait une étude en général sur les tendances de la société au niveau de la sécurité. Donc, cette étude sera disponible sur notre site web dans son intégralité, mais elle contient cette année une petite partie sur Adopi, et donc on va vous en dévoiler les tenants aujourd'hui, et puis vous trouverez l'ensemble de cette étude sur le site. Donc on va peut-être passer sur l'étude. Donc on a fait une étude sur 1500 personnes, et donc la première question qu'on a posée à ces personnes, c'est: est-ce que vous trouvez normal de rémunérer l'œuvre des artistes? Et donc, sur 1500 personnes, on a 94% de gens qui disent oui. Il y en a quand même 6% qui disent non. C'est surprenant, en tout cas, ils sont en nette minorité. La deuxième slide, on a demandé aux gens: est-ce que vous téléchargez de façon illégale? On a 58% des gens qui téléchargent de façon illégale. Au moins 58% qui le reconnaissent. Et donc, on peut imaginer qu'il y en a un petit peu plus. Mais bon, en tout cas, c'était anonyme, donc on peut imaginer qu'il y a peu de gens qui ont changé. Ce qui est assez. Donc là, je pense que là, on met le point clairement sur le fond de l'histoire, c'est de se dire qu'on est vraiment dans cette problématique d'hypocrisie où les gens sont bien conscients qu'on doit rémunérer les artistes et que c'est normal parce qu'autrement, ils vont arrêter de créer le béaba de l'histoire. Hein. Et à côté de ça, ils s'affranchissent du mode de rémunération, en tout cas admis, pour ça. Donc après, il y a une autre partie que je vais détailler rapidement, où on a demandé aux gens, en fin de compte, ce qu'ils téléchargeaient. Donc on s'aperçoit, je vous le dis rapidement, hein, qu'on a 52% des gens qui téléchargent plutôt des films, 44% des gens qui téléchargent de la musique, 33% des jeux vidéo et seulement 11% des livres. C'est un peu décevant dans le fond, mais bon. Donc on s'aperçoit qu'on touche à peu près tous les médias quand même et toutes les problématiques. Alors après, on leur a demandé aux gens: vous sentez-vous concerné par la loi Adopi? Toujours les mêmes. Hein. On arrive à 60% de gens qui disent ne pas se sentir concernés par la loi Adopi, 40% disent qu'ils sont concernés. Selon vous, la loi Adopi sera bénéfique aux artistes. Donc on demande aux gens: est-ce que vous pensez que ça va servir aux artistes? On se retrouve avec 83% des gens qui disent non, ça n'aura aucun effet pour les artistes. Et j'arrive pas à le dire parce que c'est dans du peu. Et 17%, bah, logiquement, qui pensent qu'effectivement ça peut être utile aux artistes. Selon vous, est-ce normal d'interdire le téléchargement gratuit et qui est normalement de données qui sont normalement payantes? Là, on arrive à 42% des gens qui trouvent non. Okay, donc, ils nous disent que pour eux, c'est pas normal. 43%. Donc, 43% des gens vous disent c'est pas normal d'interdire de faire quelque chose gratuitement qui est normalement payant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous disent explicitement c'est pas normal d'interdire ce qui est interdit. Objectivement, c'est un point assez important. Hein. Et il faut payer les artistes, bien sûr. Toujours dans cette logique. On peut passer à la suivante. Alors, pensez-vous que les mesures de la loi Adopi soient efficaces? Donc là, on arrive à 94% de gens qui disent non. Et on dit bien que c'est, on parle de ressenti. Justement, l'objectif de ce débat ce matin, c'est d'en parler et de voir ce qu'il en est. Là, c'est vraiment ce que pensent les gens spontanément. Pensez-vous que les mesures d'Adopi peuvent être mis en place? Donc là, on parle le cœur de notre débat de ce matin, qui était de dire: est-ce que techniquement, on est capable de faire fonctionner la chose et quelles vont être la réalité des choses, hein. Donc là, on a 80% des gens qui pensent que c'est pas possible et 20% qui pensent que ça l'est. Okay. Et la dernière question, qui est à mon avis la plus importante au final, hein, c'est: suite à cette loi, allez-vous changer vos habitudes? Parce que finalement, que ce soit possible ou pas, c'est pas très important. Ça pourrait être aussi une simple prise de conscience, se dire aux gens, bah, finalement, on a fait tout un tas de bêtises pendant longtemps, n'étant pas vraiment conscient de ce qu'on faisait. Maintenant qu'on en parle et que c'est un vrai débat et que ça a pris une vraie ampleur, est-ce qu'on a, moi, personnellement, je vais changer mon comportement? Soit parce que j'ai peur, soit parce que je trouve que c'est normal. Et on s'aperçoit que 90% des gens disent non. Non, je pense pas que Adopi me fera changer mon comportement. Et alors, peut-être que ça changera avec le temps. Hein. Mais au jour d'aujourd'hui, on a à peine 10% des gens qui, soit ont pris conscience, soit ont peur. Donc voilà les résultats rapides de cette enquête. Vous pouvez trouver sur notre site web donc, l'ensemble. Il y a énormément de questions en plus, puisque chaque année, on étudie plus la position des gens vis-à-vis au risque de la sécurité. C'est-à-dire, on leur demande plutôt, est-ce que vous vous sentez en danger quand vous utilisez Internet? Est-ce que ça modifie vos comportements? Comment vous réagissez, etc. Donc, c'est plus une étude sur le comportement sociétal vis-à-vis de la sécurité et d'Internet que cette année où on a focalisé là-dessus. Donc, je pense qu'à travers cette étude, on focalise bien sur le fond du débat, qui est de se dire, voilà, on a un problème où pratiquement tout le monde est conscient que l'idée normale de rémunérer une activité de création, ça paraît, tout le monde est d'accord. Parallèlement à ça, on a une grande majorité de gens qui disent qu'ils ne sont pas prêts à le faire. Ou qui, au moins, qui ne le font pas et qui ne veulent pas, en plus, pas changer, même en étant conscients. Donc, on va démarrer le débat. Je pense que je vais donner la parole à Cédric, qui va donc l'année, Cédric Amand, qui va l'animer. Et merci par avance, Cédric.
C'est toujours un plaisir. Ce qui serait intéressant, en fait, ce serait de reprendre ces questions et puis de les passer à l'IFOP pour conduire le même sur, là, pour le coup, un échantillon par la méthode des quotas, etc. Parce qu'évidemment, j'ai l'impression que la population qui répond à ce sondage, c'est en gros ceux qui sont ici. On a vu, il y a des répartitions par tranche d'âge, ils ont tous entre 15 et 25 ans, quasiment, avec quelques professionnels de plus de 35. Et on s'aperçoit que le ressenti de la loi Hadopi est très différent selon son niveau de proficience technique, on va dire. Plus on connaît les réseaux, plus on va avoir une opinion tranchée, d'ailleurs souvent, sur les moyens techniques d'Hadopi. Et c'est intéressant parce que ça fait maintenant plus de 2 ans qu'Hadopi est devenu presque un nom commun, comme Frigidaire. Ça fait suite aux accords Oliven, qui a lieu à à 2 projets de loi, une censure du Conseil constitutionnel, un nouveau projet de loi Hadopi 2, c'est comme ça qu'on l'appelle. De quoi rappeler que la lutte contre le piratage, ce n'est pas un long fleuve tranquille en France. Avant ça, il y a le projet de loi des ADVSI qui traitait à peu près du même problème, mais différemment. Il y a eu beaucoup de débats sur les DRM, on pourrait refaire l'histoire avec Tanguy Morlier, qui lui-même faisait suite à une directive européenne. Bref, il y a un arsenal législatif qui se déploie autour des technologies, ce qui n'est pas du tout une chose habituelle. C'est-à-dire que le fait que le législateur se saisisse de questions technologiques, bah, on l'a vu, ne se fait pas sans problème, parce que c'est une matière qui ne va pas forcément au même rythme que la loi. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un peu ce que le débat politique a laissé de côté. C'est-à-dire, c'est logique, hein, les politiques ne sont pas des ingénieurs, on ne va pas attendre d'eux des positions tranchées sur l'état de l'art des logiciels et des réseaux. Tous ces aspects techniques et aussi d'ailleurs, ça c'est la bonne nouvelle, l'offre légale qui finalement a peut-être émergé fait de ce débat. On va donc en parler aujourd'hui avec, et ça c'est mon grand plaisir de la journée, Anina Svensson, qui est patronne en France de Spotify. Nicolas, pas celui de Nico. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'il faut que j'explique ce que c'est que Spotify? Ouais, chouette.
Un peu, oui.
Je vous laisse faire.
Ah, mais super. C'est une grande occasion donc de présenter Spotify. Spotify qui est un service qui existe en France depuis 1 an maintenant, qui est sur un système de parrainage, par contre, donc il faut avoir une invitation pour se connecter, mais qui donne accès à un immense catalogue de musique. On a aujourd'hui 6 millions de titres, et tout ça légalement avec des accords signés avec les 4 grands maisons de disques, bien sûr, mais surtout aussi, et c'est ça qui fait la différence peut-être, c'est qu'on a aussi la chance d'avoir pas mal de bandes chez nous, et donc les agrégateurs des labels indépendants, on peut aussi les retrouver sur Spotify.
Donc, ce qu'elle oublie de dire, c'est que 1, il y a un grand catalogue, 2, c'est légal, 3, ça peut être gratuit. Enfin, d'ailleurs, le mode de base de consommation de Spotify est gratuit. 4, c'est illimité. Et 5, ça peut même fonctionner sur votre mobile.
Et puis, tout ça d'une façon facile à utiliser. Et c'est ça qui est vraiment la clé dans tout ça. Et c'est ce qu'on retrouve pas dans le système du P2P qui pouvait exister avant. C'est-à-dire que c'est assez compliqué. Ça prend du temps, etc. Et c'est vraiment ça qu'on a voulu résoudre chez Spotify à travers un logiciel qui mélange donc le P2P. C'est une technologie hybride qui mélange le P2P et l'allocation centrale.
J'ai tendance à dire le plus beau compliment que j'ai vu faire à Spotify dans un article une fois, c'est de dire que Spotify ringardise le peer-to-peer, pas en tant que technologie, mais en tant qu'usage. C'est-à-dire qu'aller chercher des MP3 en téléchargement, tout à coup, ça n'a pas de sens. On fera une démo tout à l'heure, vous verrez. Avec nous, mon ami Jean-Michel Planche, qui va lâcher son iPhone et qui va prendre le micro à la place. Jean-Michel Planche, vous êtes président de Whitby. Whitby, c'est une entreprise qui est spécialiste de la supervision et le contrôle et la mesure de service des réseaux. Alors que là, si je suis des applications, si je suis une entreprise, si je suis un fournisseur d'accès et que je veux m'assurer, par exemple, que mes abonnés vont recevoir la télé sans avoir des gros paquets à l'écran, c'est vous que j'appelle. Vous faites un beau métier. En même temps, c'est vous qui l'avez créé, puisque dans une vie antérieure, vous avez été le patron d'Oléane, qui était le premier fournisseur d'accès professionnel en France. Et ça ne vous rajeunit pas. Et Tanguy Morlier, vice-président de l'April. Pas besoin de présenter l'April, l'association qui promeut et défend le logiciel libre en France depuis 1996. L'interopérabilité, par ouvert, les réseaux ouverts aussi. Vous m'arrêtez si je me trompe.
Le droit d'auteur autour du logiciel libre, c'est un peu comme ça qu'on s'est intéressé au texte Hadopi, puisque c'est comme ça qu'en tout cas on nous a présenté Hadopi au tout début, qui devait être un texte qui protégeait le droit d'auteur. Donc, a priori, nous, ça nous intéresse de base, ça.
Bon, alors, pour commencer, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est quand on a commencé à préparer, à planifier cette conférence, à l'automne, il était prévu que les décrets d'application d'Hadopi sortent avant le 31 décembre. La mauvaise nouvelle, c'est que la machine législative suit son propre rythme et que les décrets ne sont pas sortis. Moi, je m'attendais à ce qu'on puisse commenter à chaud ce que sont les détails vraiment techniques qui ne sont pas dans la loi, on va le voir. Du coup, par ricochet, la bonne nouvelle, c'est que, mesdames, messieurs, vous êtes encore en position de conseiller le législateur sur ces décrets d'application. Pour se mettre les idées au clair, techniquement, Hadopi, dans son fonctionnement, comment ça marche, Jean-Michel Planche? Je peux le faire, hein, mais
Ah ben d'accord. Vas-y et puis je compléterai.
Voici la compréhension que j'ai du fonctionnement d'Hadopi. Ça commence à être assez clair d'ailleurs. Les ayants droit, éditeurs de musique, producteurs de cinéma, producteurs de jeux vidéo, c'est différent parce qu'ils le font. Diffuseurs, chaînes de télé, etc. Mandatent des sociétés privées. Il n'y en a pas beaucoup. Hein, elles tiennent sur un et encore un qui aurait tenu une grenade d'à peu près parce qu'il y a deux ou trois acteurs. Vestigo, Copyright Agency et un troisième, qui vont, très prosaïquement par exemple, je suis producteur d'un film, je vais voir la société en question et je lui dis qui échange mon film sur les réseaux peer-to-peer. Ça c'est facile, on prend un client BitTorrent par exemple, on se connecte à la série de torrents qui permettent de partager le film et on voit la liste des adresses IP en temps réel, avec en plus des clients BitTorrent qui sont... qui un peu dans votre tâche parce qu'ils vous mettent un petit drapeau maintenant à côté des adresses IP pour que vous sachiez directement qui partage de France, d'ailleurs en Europe et du reste du monde. Je prends mes adresses IP françaises, puisqu'on peut facilement géolocaliser des adresses IP maintenant, et je les envoie à l'Hadopi. L'Hadopi, elle, envoie une réquisition, alors c'est pas une réquisition, c'est un autre nom, au fournisseur d'accès, puisque là aussi on peut trier évidemment les IP par fournisseur d'accès, en disant tel jour à telle heure, telle IP, c'est quel abonné. Le fournisseur d'accès répond dans un délai idoine, je ne me souviens plus, sous peine de large sanction. Et l'Hadopi va regarder si l'abonné en question existe déjà dans ses registres. S'il n'existe pas, l'abonné va recevoir un premier avertissement. S'il existe déjà, il va recevoir un second avertissement. S'il a déjà été averti deux fois, la décision passe à quelque chose qui s'appelle la commission, la CPD, la commission de protection des droits, qui pourra éventuellement prononcer... Non, c'est fini ça. On peut plus. Pardon, justement, non, j'étais encore sur Hadopi 1. Sur Hadopi 2, la commission de protection des droits enverra le dossier devant un juge qui sera lui à même de prononcer éventuellement une amende ou, et c'est probablement ça qui a quand même frappé les esprits, la peine d'amende, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde comprend. Moi, j'ai fait beaucoup de débats sur Hadopi où j'ai dit aux gens qui étaient contre, mais si on remplace la suspension d'accès à Internet par une peine d'amende, et là, tout à coup, le débat s'apaisait assez rapidement. En disant, vous avez été averti deux fois, on vous inflige une amende. Alors après, il faut discuter du montant de l'amende. Est-ce que c'est 50 euros ou est-ce que c'est 5 euros? Pas pareil. Mais ça avait le mérite de calmer le débat. L'amende est revenue dans Hadopi 2. Elle n'était pas dans Hadopi 1. C'était une véritable exigence du législateur. Là, on passe une note prête à Jean-Michel Planche. Là, le juge pourra, au choix, prononcer une amende, une suspension, les deux. Ah, lorsque je tourne la tête par là, il faut parler plus fort, parce que le micro-cravate est de l'autre côté. Regardez, ça va voir. Voilà, on va faire comme ça.
aujourd'hui, ce juge peut prononcer à peu près n'importe quelle peine, avec évidemment les garanties d'une procédure judiciaire qui n'était pas dans la DOPI 1, puisque le but était d'arriver à faire des procédures accélérées et de ne pas encombrer les couloirs de la justice avec des procédures qui seraient nombreuses, même si là encore, on n'a pas de chiffres précis. On sait que potentiellement, dans les notes de travail du ministère de la Culture, on disait en tout cas, avant que le rapporteur de la loi, comment ça s'appelle ? Non, pardon, le... Ah, flûte, le... conseiller du ministre de la Culture, Olivier Henrard, qui y a perdu son job, mais je pense que ça n'a pas de rapport. Non, mais c'est vrai. Lui disait, le but fonctionnel est que Adopi puisse envoyer 10 000 avertissements par jour, par exemple. Ce qui aboutissait à un taux de sanction d'une centaine de personnes par jour, on va dire à peu près 1% ou 10, entre 100 et 1000 par jour, ce qui quand même faisait beaucoup de sanctions au final. Sanctions qui, dans l'esprit du législateur, ne pouvaient pas être prononcées par un juge judiciaire, parce que tout à coup, rajouter 300 000 prochaines procédures judiciaires à la charge des tribunaux français, c'était un peu compliqué. Donc, Adopi 2 prévoit une procédure un peu spécifique qui ressemble plus à celle que vous subiriez, par exemple, quand vous dépassez la vitesse autorisée sur le périph' et vous tombez sur un radar automatique, mais... En tout cas, la loi, là, vous permet de faire valoir votre bonne foi, vos arguments. C'est pas moi, je ne suis pas cet abonné, je n'habite pas la France, etc. Ce que la loi sanctionne proprement dit, dans l'esprit des gens, c'est le téléchargement. Le quid pro quo de la loi, c'est j'ai téléchargé, je suis sanctionné. En fait, c'est plus compliqué que ça. Ce que la loi dit sanctionner, c'est le non-respect de l'obligation de sécurisation de sa ligne Internet. Ce qui est déjà une périphrase, mais je vous allais en parler, parce que le but n'est pas que je fasse tout seul, je vous rassure. En clair, vu que l'adresse IP de l'abonné identifie une machine, une connexion plutôt qu'un utilisateur nommément, il est plus simple de sanctionner l'abonné plutôt que de savoir exactement qui, dans le cercle de famille ou le pâté de maison de l'abonné, a téléchargé le dernier Britney Spears. Pour avoir conduit beaucoup de débats, parfois techniques, autour d'Adopi, les spécialistes me disent le problème, c'est que l'adresse IP, c'est pas l'alpha et l'oméga de l'identification sur Internet, Tanguy ?
Oui, enfin... En tout cas, nous, ce qui nous a choqué, effectivement, c'était cet élément lié à la sécurité, mais qui n'est pas la sécurité informatique comme on a l'habitude, nous, techniciens, de le faire, mais là, c'est la sécurité juridique. C'est-à-dire que lorsqu'on a commencé à regarder le projet de loi, nous, une partie des gens à l'April font valoir leurs droits d'auteur puisqu'ils sont développeurs de logiciels libres. Donc, a priori, quand il y a un texte de loi qui parle de droits d'auteur, on s'y intéresse. Et on a regardé.
Est-ce que ça concerne le logiciel, d'ailleurs ?
A priori, quand on touche au code de propriété intellectuelle, il y a moyen que ça touche. Donc nous, on a voulu savoir, et justement savoir, qu'est-ce qu'encouraient les gens et qu'est-ce qui allait protéger des créateurs comme les développeurs de logiciels libres, par exemple. Et c'est effectivement ce qui nous a énormément étonnés, c'est que, en gros, les gens qui téléchargent, ils ne sont pas du tout touchés. C'est les gens qui ne sécurisent pas leur accès Internet qui encourent une peine. Donc déjà, en termes de sécurité juridique, on a eu un petit peu un doute. Et après, on est rentré un petit peu plus en détail, on s'est aperçu qu'il y avait un logiciel de sécurisation. Donc,
on va y venir.
Le logiciel libre. Ah d'accord, on y vient peut-être plus tard.
Ne vous inquiétez pas.
Et ça tombe bien qu'on soit dans une conférence sur la sécurité, parce qu'il y a deux éléments de la sécurité. Il y a le truc très technique de « est-ce que mon pare-feu est bien configuré. Et de l'autre côté, il n'y a pas des textes de loi qui me font me mettre un petit peu en danger par rapport à ça. Et donc, on s'est aperçu que les techniques de détection dont on a parlé tout à l'heure, elles ne sont pas forcément très fiables. En général, c'est 33% de faux positifs. C'est-à-dire que...
Le chiffre vient d'où ?
C'est une étude américaine. Je ne sais plus d'où ça vient exactement. Donc, ça veut dire que...
Mais c'est-à-dire si je vais dans mon client BitTorrent, que je cherche le dernier Britney Spears et que justement je vois la liste des adresses IP.
Non, c'est au niveau de la détection, c'est-à-dire que l'entreprise qui va détecter les différentes adresses IP qui pourraient être mises en cause par le téléchargement, par un téléchargement illégitime, 33% de ces adresses IP-là n'ont jamais effectivement téléchargé.
Mais elles se retrouvent là comment alors
À travers le fonctionnement de BitTorrent, c'est-à-dire que quand on se connecte à BitTorrent, on nous envoie un certain nombre d'adresses IP. Et elles ne sont toutes pas bonnes, ou elles sont toutes avec des problèmes de routage, le fait qu'il y ait des gens qui injectent des adresses IP dans ce système-là juste pour embêter le système, etc. etc. Donc, les études démontrent qu'il y a 33% de faux positifs. Le ministère de la Culture a dit qu'il y avait 10 000 envois de mails par jour. C'est-à-dire qu'il y a 1 million de personnes en France qui vont recevoir un mail à tort.
300,
ça fait 3 millions de mails envoyés, 33%, ça fait 3 millions de mails envoyés à tort. Donc on va accuser à tort des gens. Alors par mail, c'est pas très grave, on a l'habitude de recevoir du spam, mais malgré tout, ça pose quand même un problème. L'entreprise, la petite PME qui vient de démarrer, qui reçoit un mail, vous avez téléchargé, alors qu'ils n'ont même pas, quasiment pas, ils viennent juste de se connecter à Internet, il y a un problème.
Il y a d'ailleurs des problématiques particulières pour une entreprise, ou enfin, on va dire une personne morale. Parce que si vous êtes, le CHU du Kremlin-Bicêtre, et que vous êtes globalement identifié pour l'extérieur par une adresse IP, forcément, vos chances de fauter sont à peu près proportionnelles au nombre de postes de travail que vous avez à l'intérieur du réseau. Alors évidemment, il y a des professionnels de sécurité à l'intérieur qui ont déjà dû bloquer les ports idoines, etc. J'imagine pas qu'on puisse faire du peer-to-peer à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, si quelqu'un a l'information.
Il faut savoir que pendant Adopi, il y a eu une lettre qui a circulé à l'intérieur de l'Assemblée nationale, de la présidence, que bah, ils avaient des problèmes de réseau et que c'était à cause de téléchargements illicites
à l'intérieur de
l'Assemblée nationale et qu'ils avaient du mal à le résoudre.
Qui utilisent du logiciel libre, soit dit en passant.
Oui, mais
oui, l'un n'empêche pas l'autre. Si vous ne parlez pas dans le micro, ça n'existe pas.
Il y a eu pendant ce moment-là la SACEM aussi qui a eu son réseau oui, non suffisamment sécurisé et donc qui aurait pu se faire pirater bâtiment facilement et donc accusé à tort, ce qui aurait été quand même un grand moment.
Oui, mais ça arrive à tout le monde. On a tous regardé dans notre pâté de maison. Tout le monde a un petit hotspot marqué Link 6, par exemple, totalement ouvert, que l'utilisateur a acheté, branché, il ne s'est pas posé la question, ça fonctionne, c'est très bien, ça permet de connecter sa télé. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'il y a toute une nouvelle génération d'usage du réseau jusque là, on avait une box et allez, dans sa plus simple expression, on prenait un câble Ethernet et on branchait son PC et c'était fini. Au moins, pas de problème de sécurisation. Plein de gens ne savent même pas qu'ils ont un hotspot Wi-Fi dans leur box. Il faut réaliser ce genre de choses. Ils vont finir par réaliser, parce que la prochaine fois qu'ils vont acheter un téléviseur, par exemple, il sera Wi-Fi, il aura une belle interface avec des widgets pour aller chercher plein de contenus. Et là, tout à coup, ils vont se poser la question de la connexion, parce que tirer un câble Ethernet au travers de la maison, de la chambre du petit, etc., parce qu'évidemment, la box, elle est dans l'entrée, mais le salon, enfin bref, tout à coup, le Wi-Fi est votre ami, et ils vont se poser la question de « Tiens, j'ai une box, j'ai du Wi-Fi, comment je fais pour m'y connecter ?» La sécurisation, c'est là qu'on s'aperçoit que finalement la sécurité, c'est un métier professionnel. Je voulais quand même vous entendre sur l'adresse IP.
Alors là, il y a les 33% qui sont mauvais, mais on le sait bien aussi, vous avez étudié les réseaux. On log quand même des adresses IP quand vous affectez par des moyens type DHCP ou autre une adresse IP que vous la loguez dans un endroit, vous essayez de remonter à un abonné. Je serais très surpris quand même qu'aujourd'hui on arrive, moi dans mon ancien métier je voyais bien qu'on n'y arrivait pas à 100% des cas, mais je serais très surpris qu'on arrive à 100% des cas où il n'y a pas d'erreur. Donc déjà même dans les équipements de télécom, être certain que la bonne abonnée est derrière la bonne adresse IP, loguée par des moyens où on peut perdre des paquets, etc., etc. Je crois que Nicolas vous fera un cours sur le sujet. C'est déjà un grand moment d'hilarité, un deuxième. Mais je voudrais juste revenir sur quelque chose que tu as évacué très vite. Parce que ça, c'est à la source d'un énorme problème. Le non-respect de la sécurisation de sa connexion Internet. Nous maintenons, et là je parle devant quand même des grands spécialistes, que nous n'avons pas en France les moyens, je maintiens, comme ça va être plus clair, de sécuriser notre connexion Internet. Point. Pour plein de raisons. Première raison, par défaut, il y a quelques temps, Wi-Fi, quel codage de combien de minutes ou combien de secondes on pouvait casser une clé traditionnelle.
Moi qui ne suis pas un expert, j'ai fait le sujet en avril dernier.
Enfin, il y a des techniques de chiffrement.
J'ai appris à casser la clé web du voisin.
En combien de temps?
Dans des conditions idéales, ça va très vite. Dans les conditions idéales, ça peut se faire en moins de 10 minutes. Dans des conditions pas idéales, ça peut prendre un temps infini, comme tout en informatique. Mais de fait, on est dans le domaine du possible. Sinon, maintenant,
dans le domaine du possible, c'est que la première technologie qui était utilisée, qui était, sauf erreur de ma part, du web, c'est quelques secondes, meilleur des cas. Voilà, c'est immédiat. Donc, deuxième côté un peu plus sécurisant, WPA, tous ces machins-là, c'était, il fallait un peu plus de temps de calcul. Il n'y a pas longtemps, il y a une société qui a sorti. Allez, pour vous amuser, faites-le vous-même, testez votre connexion. Et pour 10$ ou un truc comme ça, on peut utiliser des ordinateurs en mode cloud computing répartis dans le monde pour aller casser la clé web du voisin pour rire, pour voir si ça passe facilement. Donc déjà sur le codage, on a déjà un problème. Mais indépendamment de ça...
Et là, on n'a pas le même problème sur le WPA2, sur ce genre de choses.
Que si.
Ah non. Voilà. Venez donc craquer ma 9-box, j'habite à côté.
Paris.
Il y a une clé qui vient avec moi pour...
clé de 20 caractères.
C'est pas marrant chez Cédric, il faut le faire chez quelqu'un chez qui c'est plus emblématique. Le fond du problème, à la limite, on pourrait toujours inventer J et puis les gens derrière qui voudraient vraiment s'énerver dessus, s'ils ont l'intérêt à le faire, vont toujours trouver, c'est pas grave. Le fond du problème, l'ami de l'April l'a dit tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, s'il y a le logiciel libre, là, j'en suis très sensible, c'est pas un hasard derrière. Quand la loi derrière va préconiser un logiciel pour sécuriser sa connexion, quelque part, la crainte, c'est que le logiciel libre en soit complètement exclu de cette affaire-là, qu'il y ait tellement de choses qui soient imposées que derrière, vous, dans l'innovation, et on va reparler Cédric, ces lois-là nous excluent complètement du cercle de l'innovation. Et quand je dis qu'on n'a pas les moyens de sécuriser notre propre box, c'est qu'on n'a absolument pas les moyens de contrôler aujourd'hui notre box, ni plus ni moins. Typiquement, je ne peux pas rentrer dedans. Alors, il y a eu des grands débats avec Free. La plupart, d'ailleurs, utilisent du logiciel libre, sauf erreur de ma part. Normalement, ils devraient reverser, etc., etc. Ils le font maintenant pour la plupart. Mais on n'a pas les moyens de sécuriser ce qu'on a chez nous. On n'a pas les moyens de dire, pour mon gamin de 7 ans, je veux un certain périmètre de sécurité. Pour mon gamin de 15 ans, j'en veux un autre. Et pour celui de 21 ans, j'en veux encore un autre. Je n'ai pas les moyens. Vous y tout au moins, vous l'avez. Ben, faisons-le, montrez-le-moi. Alors, certains m'ont dit, ça c'est encore bon, en politique ça porte un nom, vous n'avez qu'à mettre des logiciels sur vos PC. C'est gentil, mais le logiciel sur son PC, je le ressors, ça s'appelle un iPhone, il y a quoi dessus pour sécuriser? Rien.
Quoi, il n'y a pas une app pour ça?
Bon, là oui.
Non, c'était perfide.
Là oui, il y a un truc, non, ma téléconnexion.
Là oui, si. Non. Il y a un peu de contrôle parental.
Oui, qui est contrôlé par un monsieur Nintendo qui est aux États-Unis ou je sais pas où, ou en Chine ou
peu
au
importe,
Japon.
Ça marche, c'est bien. Hein.
Mais ça nous exclut du champ de l'innovation. Moi, si mon gamin, je veux pas qu'il utilise des jeux où il y a plus de 3 personnages et qu'ils se battent, c'est à moi de le contrôler, c'est pas aux Japonais. Je passe les détails, la télé connectée avec de l'IP, il y a quelque chose, mon frigo qui sera connecté, qui va appeler, qui va d'abord appeler Monsieur Samsung pour savoir ce que je suis en train de manger, pour me dire que c'est pas bien pour ma santé. Tout ça, ça nous exclut, et je crois qu'on va avoir ce débat, ça nous exclut de l'innovation et de la capacité de contrôler nos objets du quotidien et donc notre vie numérique. Et on a donc, on revient quand même au fond du sujet, nous n'avons pas la possibilité de sécuriser notre accès à Internet parce que nous n'avons pas le libre choix des logiciels que nous utilisons chez nous. Et déjà, à partir de là, inscrire ça dans la loi est déjà une... Je vous laisse conclure.
Je vous laisse conclure sur les mots.
Oui, moi j'appelle ça un peu une hérésie. Mais effectivement, enfin, on commence là à toucher le deuxième point de sécurisation juridique, qui est que, bon, on a vu, c'est pas les téléchargeurs qui sont accusés, c'est le responsable de la ligne.
Ah oui, bien sûr.
Et donc, du coup,
C'est le seul qu'on peut.
Alors, dans Adopi 2, ils ont fait quand même des progrès, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une deuxième peine qui vise plus précisément la personne qui aurait téléchargé de manière illicite, parce que si vous téléchargez un noyau Linux ou une FreeBSD, normalement.
Oui, jusque là.
Ça devrait aller.
Juste l'usage de l'outil qui est répréhensible, on part du contenu.
On espère parce que c'est...
Ah non, parce que alors, là par contre, les choses sont assez claires, on part du contenu puisque l'ayant droit, puisque le début de la procédure c'est l'ayant droit. L'ayant droit dit j'ai telle œuvre qui m'appartient, je veux savoir qui partage cette œuvre.
Oui, on
part
mais
de l'œuvre et pas de l'outil.
Quand on entend le secrétaire général de la DAFSI qui est devenu Adopi, dont j'ai oublié le nom, qui nous...
Jean Berbineau,
voilà. Qui nous... Pardon ? Oui, il est devenu membre maintenant. Qui nous parle de méthodes de filtrage applicatif.
L'applicatif, il ne va pas filtrer le contenu, il filtre les applications.
On va revenir au filtrage aussi, parce qu'en plus, le filtrage, toutes les choses qui là, pour le coup, sont bien plus larges d'applications que le simple piratage.
Sur la sécurisation juridique, le deuxième point, c'est qu'il y a une inversion, vous êtes coupable de base. Et ça, c'est un très gros danger pour n'importe qui en termes de sécurisation juridique.
Ce serait quand même pas de chance que trois fois de suite, on récolte une adresse IP qui vous identifie, mais ne soit pas vraiment la vôtre.
Oui, mais
ce serait vraiment pas de chance.
Oui, mais si j'arrive à découvrir les 20 caractères de votre clé,
Je vous aide un peu, ça commence par C. Voilà.
D'accord.
Vous venez de descendre d'un facteur de difficulté.
Effectivement.
Par 200.
Et donc, si jamais quelqu'un découvre vos 20 caractères, télécharge depuis votre Wi-Fi, comment vous faites?
Non, 20 caractères. 20. Non. Non, 6 caractères, je ne donnerai pas le premier.
Comment vous faites pour prouver que vous êtes innocent? Vous êtes très technophile, mais imaginez ma grand-mère qui a un accès à Internet. Moi, je suis incapable de prouver mon innocence. On ne m'en donnera pas les possibilités parce qu'en plus, j'utilise le logiciel libre. Donc là, pour M. Berbineau, je suis à bannir totalement. Mais du coup, comment on fait pour la sécurisation juridique et sociale?
Moi, il a fallu que je conseille ma maman. Raconter ma vie, ma maman vit à Lannion. Et ben voyez, et elle avait une clé web qui sécurisait sa box, qu'elle partageait d'ailleurs avec les étudiants qui vivaient dans le même immeuble, parce qu'évidemment, c'est-à-dire que les études dans une unité, je vous la fais rapide, elle aime bien les étudiants, et je lui ai dit non, mais le problème c'est qu'à Lannion, il y a plein de gens qui savent parfaitement ce que c'est qu'une clé web, ce serait pas pareil si on était dans la Lozère, vous voyez ce que je veux dire, donc il serait temps de passer à des moyens de sécurisation un peu plus avancés, donc ma mère, 65 ans, prend sécurisation de sa ligne, parce que ce serait quand même cocasse que ma mère se retrouve sanctionnée par la DOPI.
Ça va être le cas, mais on parle beaucoup quand même des maires et des utilisateurs, mais je voudrais quand même rappeler que d'autres utilisateurs de l'Internet, ça s'appelle des entreprises. Alors qu'un citoyen, et on s'est énormément battu là-dessus, qu'il ne soit pas exclu, c'est une chose, mais l'entreprise, c'est quand même quelque chose d'assez différent. Quand vous coupez un accès, et d'ailleurs il y a très longtemps, l'opérateur télécom ne pouvait pas couper n'importe comment, parce qu'on nous a un jour, un politique a expliqué, mais si vous ne payez pas votre facture, on peut vous couper. Ouais. Banque particulière, oui, couper une entreprise, c'est un autre débat. Couper une école, c'est un autre débat. Couper un hôpital, c'est un autre débat. Là, on parle aussi de ça, quand même, quelque part. Et dans les PME, il y a des PME qui sont aussi évoluées technologiquement que ta grand-mère. C'est-à-dire que, typiquement, ils ont connecté, ça se branche, ça marchote, etc. Ils vont se voir couper plus ou moins du jour au lendemain. Et là, ça peut quand même commencer à devenir quelque chose de relativement grave et de relativement compliqué, cette affaire-là.
Je vous avoue, j'ai fait une impasse sur ce que dit le projet de loi dans sa dernière version, sur les personnes morales, les entreprises, etc.
Et puis, il n'y a plus de rôle. Il n'y a plus de rôle que ça. Parce que quand on a appris cette chose-là, moi, évidemment, en tant que perfide, j'ai dit, mais c'est drôle, quoi. Il y a des sociétés qui fabriquent leur propre Internet. Vous allez faire comment pour les couper? Ma société, Whitby, AS15436, il y a plusieurs providers. C'est qui va nous couper.
Non, mais ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a autre chose aussi. Il y a des espaces où il y a le Wi-Fi gratuit et d'accès libre. Donc ça, c'est aussi
là, par contre,
une
c'est
autre
super
chose.
Grave. C'est super grave parce qu'ils avaient trouvé la solution. Vous vous souvenez comment ils ont trouvé la solution? C'est la bonne solution, c'était Einstein. Einstein disait, il y a un problème, je l'escamote, il n'y a plus de problème. Donc ça, c'était une philosophie. Mais eux, ils ont utilisé la même. Il y a le problème, effectivement, des Wi-Fi ouverts. Dans les mairies, dans des endroits publics, il va y avoir des endroits où vous pourrez vous connecter. Donc, ça va poser des problèmes aux politiques. Les politiques ont trouvé la solution pour résoudre le problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, on ne va quand même pas pouvoir faire une liste de tout ce qui est interdit. Vous savez ce qu'ils ont promu? Une liste de tout ce qui est autorisé.
Ah oui, le fameux projet de liste blanche de sites autorisés.
Mais si on vous liste toute l'historique...
Vous remarquez que ça, c'était, je ne sais pas quel conseiller...
Mais c'est quand la commission, mais c'est passé, ça a été discuté derrière.
C'est dans la commission Zelnick, d'ailleurs, que ce référencement de tous les services est accepté et les groupes seront référencés de façon...
Là, c'est différent, ce sera le portail ouvert et non discriminant des services musicaux, mais ce n'est pas la liste blanche des services
non.
auxquels on aura le droit d'accéder à partir de Wi-Fi.
Elle a expliqué que c'était effectivement une solution, elle l'a expliqué à l'Assemblée, il y a les vidéos. effectivement sur une liste blanche des services autorisés, etc., etc. C'est quand même extraordinaire.
Je vous remarquez que Mme Albanel n'était pas une technicienne.
Non, mais ses conseillers, en théorie, oui. Ceux qui font le grand écart à la danse et puis ceux qui font autre chose.
Mais c'est vrai que ça posait la question des réseaux ouverts, parce que moi, ça fait 10 ans que je fais des émissions sur, vous allez voir, l'Internet dans l'air, aussi libre et gratuit et accessible que l'air qu'on respire, au travers des projets successifs. On se souvient d'Ozone, le provider Wi-Fi de Raphaël Adjian, de Faune, plus récemment, même si Faune, finalement, vous connaissez Faune, ce système qui vous permet de partager justement votre connexion au travers d'un routeur particulier avec le reste du pâté de maison. Sinon, Faune, c'est plus particulier parce qu'en fait, ce côté c'est gratuit, tout le monde se connecte et tout va bien, c'est pas si simple que ça. En fait, finalement, Faune sait très bien qui est connecté à ces box, parce qu'il faut s'identifier même une fois, même gratuitement, il faut quand même ouvrir un compte, même pour 5 minutes, même pour un quart d'heure. Et d'ailleurs, Jean-Bernard Majescas, qui était le patron de Faune pendant longtemps, nous disait tous les matins, lui, sur son bureau, il avait les réquisitions judiciaires de la police disant on a une affaire de fraude, une affaire de pédopornographie, une affaire de... etc. Voici la liste des adresses IP. Donc,
C'est plutôt les politiciens du territoire, le maire du petit village qui n'a pas d'ADSL correct et qui décide de monter un hotspot Wi-Fi, c'est eux qui sont visés par cette insécurité du texte, plutôt qu'effectivement Faune qui connaît très bien, je suis d'accord, qui se connecte à quel moment.
Je sais que la question s'est posée chez Microsoft récemment, qui pour le lancement de Windows 7 a ouvert un Microsoft Café au boulevard de Sébastopol. Et évidemment, pour simplifier les choses, ils voulaient mettre un hotspot gratuit, ouvert, enfin, que ce soit un truc un peu convivial. Et je ne suis pas sûr qu'ils auraient fait les choses de la même façon si Adopi avait été promulgué avant le Internet, si Adopi avait été promulgué à la fin de l'été. Je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu un hotspot ouvert et gratuit au Microsoft Café. Pour une petite histoire, avant même que le Microsoft Café ouvre, il y avait une grande bannière dessus disant en attendant l'ouverture, profiter de notre Wi-Fi. On voit bien que... Alors, l'autre argument des spécialistes des réseaux sur l'adresse IP, au-delà de l'identification, c'est de dire on peut masquer son adresse. Il y a d'ailleurs plein de gens, principalement à l'étranger, qui voudraient bien vendre aux internautes français des services de VPN, de réseau privé virtuel. Des réseaux privés chiffrés qui vous permettraient de surfer anonymement, etc. Ou en tout cas de vous faire passer pour quelqu'un, pour un abonné anglais, américain, russe, etc. Au choix d'ailleurs. Vous y croyez sérieusement à la création de cette industrie pas ex nihilo, parce que jusque-là, les VPN, je ne vous apprends rien, c'est un outil d'entreprise. Moi, j'utilise du VPN pour me reconnecter quand j'ai un sujet à renvoyer à ma rédaction et que je suis à l'étranger, il y a un service de VPN. Enfin, vous y croyez tout à coup comme outil grand public?
Évidemment.
Évidemment.
Évidemment, et je vais revenir là-dessus. Il faut quand même savoir que, je rappelle Nicolas, il y a 20 ans, on ne pouvait pas imaginer que Mme Michu sache ce que c'est qu'ADSL, voire même ATM. Ce truc-là, c'est paru dans les publicités. Ces mots, moi, ça me fait rire tous les jours quand je vois nos députés, voire même nos sénateurs qui prononcent des mots technologiques qui n'avaient qu'une connaissance, qu'une conscience d'ici. On a réussi à évangéliser de façon spectaculaire. Bien évidemment qu'on va banaliser le chiffrement. Et ça, c'est un bien et c'est un mal. C'est un véritable problème. Pour répondre à ta question, j'ai adoré ce sondage quand même. 60% des gens pas concernés par Adopi. Je ne fais pas une grosse circonvolution, j'y arrive directement. Mm-hmm. Ça prouve qu'on a mal fait notre travail pour effectivement vous expliquer en quoi ça concerne tout le monde. On va en parler. 80% disent non, pas possible de mettre en place une technologie qui permettrait d'être conforme. Là, ça veut dire qu'on a super mal fait notre travail ou que vos enseignants l'ont mal fait, j'en sais rien. 80% des gens disent qu'on n'est pas capable de mettre en place une technologie qui permettrait de respecter les desiderata de M. Berbineau associé à M. Fatou. Non, bien sûr que si, on est capable de le faire. On sait faire ce qu'on veut. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Vous ne savez pas d'un réseau où l'IP est repoussée le plus possible vers l'utilisateur, prendre votre IP et le centraliser? Vous ne savez pas faire remonter les flux en un point? Vous ne savez pas faire une ligne Maginot face à un problème? André Maginot, quand il a eu un problème, il a même par la défense nationale en montant une fête. C'était sa solution. Donc on sait faire. le VPN, bien évidemment, va apparaître comme une solution, puisque les gens vont se dire, non mais bon sang de bois, qu'est-ce que c'est que ce régime politique qui va, face à un problème, plutôt que de résoudre à partir des causes du problème, il va s'attaquer à une des conséquences. Et donc, il va nous imposer le chiffrement, le Deep Packet Inspection ou des choses comme ça, où on va regarder nos paquets pour savoir qui parle, à qui, et qu'est-ce qui se dit pour savoir si c'est autorisé ou pas. À un moment donné, on va trouver ça intolérable. Intolérable dans notre usage de citoyen, mais intolérable dans notre usage professionnel. Et au niveau professionnel, nous utilisons tous, dans les pays où nous voyageons, des VPN. D'ailleurs, il est à noter, c'est assez amusant, parce qu'on nous dit souvent les Chinois. On va en reparler de ce qui s'est passé avec Google, mais moi, quand je me déplace et que je vais en Chine, en particulier à Hong Kong, on me dirait que c'est peut-être pas la Chine, mais je me dis que c'est pas vraiment la Chine. Je peux me connecter à mon VPN beaucoup plus facilement que quand je me connecte dans certains lieux en France, dans certains aéroports, ou même d'ailleurs quand je vais aux États-Unis et que je me connecte sur le hotspot de Google. Si vous, certains sont allés chez Google et pensent que c'est l'environnement ou l'endroit où il y a toute liberté, bah essayez de vous connecter sur un hotspot Wi-Fi de ces grandes entreprises américaines et vous comprendrez que le nombre de ports est généralement limité au port 80 et qu'a priori, on voit bien qu'est-ce qui peut passer ou pas et même vous envoyer utiliser votre propre relayage de mail commence à être compliqué. Donc, on peut tout faire. Et cette partie-là, là où ça devient dangereux, c'est qu'effectivement, les politiques vont nous pousser à utiliser et à nous protéger, vont utiliser des techniques de chiffrement. Rappelez-vous, Nicolas, c'était quand on a libéralisé le chiffrement ou c'est plus considéré comme une arme de guerre ?
C'est il y a moins de 15 ans, oui.
C'était il n'y a pas si longtemps ?
98.
C'est-à-dire qu'avant...
Dit Frédéric Couchet.
Avant, pour être clair, nous avions à peu près... La législation française nous imposait de nous protéger de façon très, très légère. Les clés de chiffrement étaient très faibles. Donc la sécurité intérieure, la sécurité nationale était relativement compromise, ou tout au moins on ne pouvait pas se protéger d'égal à égal avec d'autres pays développés comme les États-Unis ou autres. Et on était classifié à peu près dans les mêmes pays qu'il y avait quoi ? Il y avait l'Iran, l'Irak, toutes ces choses-là qui effectivement avaient des règles qui interdisaient ces techniques-là. Donc à trop utiliser des techniques de chiffrement, on risque deux choses. Première des choses qu'à un moment donné, on va complexifier le travail des gens dont le métier est effectivement de déchiffrer certaines choses pour aller chercher le vilain, le vrai, pas celui qui est pseudo derrière un truc pour télécharger Vanessa.
Oui, parce que mon objection sur l'adresse IP, c'était de dire, attendez, on est en train de dire, ça fait plein de faux positifs, c'est pas d'une fiabilité absolue, etc. Fort bien, mais c'est ce qu'on utilise déjà dans toutes les enquêtes sur la fraude, les criminalités, la pédopornographie, etc.
Oui.
Et ça marche.
Oui, bon. Aujourd'hui, on est obligé de déchiffrer certaines choses parce que le vrai vilain, le vrai pédophile, le vrai trafiquant de drogue, il utilise tous ces trucs-là. On dirait d'ailleurs que la loi elle travaille en retard. Ils ont l'air de découvrir que ces gens-là, enfin, ils utilisent déjà ça. Ils ne sont pas concernés. Celui qui veut véritablement faire des choses mal, il n'est pas concerné par ce qu'on va leur proposer puisque derrière déjà... On lui a mis deux moteurs sur son bateau pour transporter les cigarettes quand la police en a deux. Lui, il en a déjà quatre. Quand il en a quatre, ils en ont huit. Donc, de toute façon, c'est une course. Par contre, nous, à généraliser le chiffrement, je reviens dessus, on risque deux problèmes. Les problèmes, on va chiffrer tous les flux. Donc, à partir de là, ça va rendre beaucoup plus difficile le travail de gens qui déjà ont un travail difficile. Premier souci. Deuxième souci... À trop vouloir dire, monsieur les politiques, votre truc, ça ne peut pas marcher parce qu'on va chiffrer et votre Deep Packet Inspection de tous ces machins-là, vous n'allez rien voir et de leur faire un bras d'honneur. Ça, c'est aussi une attitude irresponsable et complètement idiote parce qu'on va les énerver, nos politiques. Et comment ils vont résoudre le problème ? Eh bien, ils vont dire, messieurs les geeks et les machins, vous êtes bien amusés avec votre clé de 1024 bits ou des trucs comme ça, eh bien, on va revenir à des clés de 4 bits, 2 bits, 1 bit, ou même d'ailleurs, on ne va pas le faire comme ça. Parce que quand même, on va être respectueux des entreprises. Nous allons donc considérer que vous avez le droit de vous protéger avec des clés de 128 bits ou de 256 ou ce que vous voulez, mais vous allez les déposer chez M. Berbineau, qui lui pourra aller regarder ce que vous avez fait, etc. etc. Là, on risque quand même, par un petit phénomène, d'accoucher d'une montagne. Et cette montagne, on reviendra sur les conséquences, risque quand même d'être problématique pour la sécurité intérieure de notre pays, pour l'innovation de notre pays, pour l'évasion des talents, et des, etc., etc. On va en reparler, je crois, sur l'effet des conséquences de ces technologies.
Sur l'histoire des VPN, moi, ce que je trouve, j'ai du mal à imaginer et je me trompe peut-être, que des internautes aillent payer ces services, parce que pour l'essentiel, les services de VPN efficaces, ils sont payants.
Sûr que si. Si tu demandes à un jeune, est-ce que vous préférez payer un truc légal dans lequel on va vous proposer en première position Johnny Hallyday et en deuxième machin, et que ça va vous coûter 9 euros de poussière et que vous aurez effectivement cette chose-là, ou est-ce que vous pouvez vous aller vous sécuriser à 5 euros ou 15 euros tous les 3 mois pour que ça soit chiffré, le côté frondeur français va faire qu'effectivement, on va passer à côté.
J'oubliais le côté frondeur français.
Les offres de type Spotify sont beaucoup plus intelligentes là-dessus parce que derrière, ils peuvent pour exister, ils n'ont pas besoin d'une carte jeune pour télécharger de la musique. Ils sont certainement dessus, mais ça ne coûte que 9 euros et des poussières. Et le côté frondeur français va bien évidemment préférer se positionner et payer, tout au moins c'est comme ça que je le ferais si j'avais à le réfléchir, payer 5 euros par mois pour se protéger ou avoir l'illusion de se protéger. Alors derrière, on l'a vu d'ailleurs ce qui s'est passé en Iran où les gens pensaient se connecter derrière des VPN alors que c'était le gouvernement qui envoyait des ordres en disant « Attention, là il y avait un VPN, vous allez pouvoir vous sentir protégé », mais effectivement, c'était pas totalement, ils n'étaient pas totalement protégés puisqu'il y avait une connexion directe avec ceux contre lequel ils voulaient se protéger. Donc évidemment, le côté français va préférer une offre qui n'est pas une offre, entre guillemets, l'offre que les politiques veulent nous entraîner. Et ce qui est tout à fait quand même intéressant, c'est que nos amis politiques nous ont dit « cette discussion est intéressante parce qu'elle montre le niveau de conscience des Français et leur niveau d'information ». Je suis tout à fait d'accord avec eux, mais j'étais dubitatif sur le côté « est-ce que l'éducation va fonctionner ? Est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas y avoir un contre-coup de collier ? Est-ce que les jeunes ne vont pas dire « là, il y en a marre, quoi ». Ils nous entraînent à droite, on va aller à gauche, ou à gauche, on va aller à droite. Bah, le chiffre, il est éloquent, et j'en finis là-dessus. 90%, suite à cette loi, allez-vous changer vos habitudes ? Non, 90%. Le côté éducatif est complètement raté sur cette chose-là. Et si on n'arrive pas, vous, à vous entraîner là-dedans, ils ont un problème, parce qu'a priori, vous êtes ceux qui font partie de ceux qui ont, a priori, le plus de conscience.
Mais ce qu'on souhaite aussi, c'est de changer un peu le débat, d'arrêter de parler d'amende, de répression et de la partie négative de Hadopi, mais plutôt de parler de ces 99% qui voulaient qu'il y ait une rétribution juste aux artistes. Et je pense que ce qui est très fondamental dans la discussion, c'est que l'utilisateur aujourd'hui, il ne veut pas pirater. Il ne veut pas être un pirate ou illégal ou de l'autre côté de la barrière de la loi. Et ce qu'il veut, c'est juste d'aller chercher sa musique. Et ça, je pense que c'est légitime de vouloir avoir le meilleur contenu dès que ça sort ou même avant que ça sort, etc. Et donc, ils vont toujours chercher le moyen pour aller le trouver.
Donc pour vous, il n'y a pas de volonté déterminante de l'utilisateur à faire un truc illégal pour faire un truc illégal. Il y a juste, la possibilité technique qui a été offerte de le faire à un moment T, et puis après, les mauvaises habitudes, compris les utilisateurs.
Non, mais je suis persuadée que personne ici qui télécharge illégalement a envie de le faire parce que c'est illégal. Au moins, ça sera...
Vous oubliez l'esprit frondeur français dont parlait Jean-Michel Plan.
Non, mais je pense que dans l'esprit frondeur français, c'est juste que l'étude le démontre, la majorité des gens, ils veulent payer. Ils sont prêts à payer pour accéder à la culture.
Je ne suis pas sûr que l'étude le dise si clairement que ça. La majorité des gens veulent que les artistes soient rétribués. Ce n'est pas pareil. Entre il faut que les artistes soient payés et je veux payer moi les artistes, c'est...
Dans la musique, les gens vont au concert. Au cinéma, 2009, c'est la meilleure année depuis 85, il me semble, en termes de fréquentation des salles.
Il y a un chiffre qui vient de sortir, qui est une bonne nouvelle pour l'industrie du disque, c'est que les ventes de CD en décembre 2009 sont au même niveau que celles de décembre 2008 et donc n'ont pas baissé. Donc jusque-là, on disait on tombe, on peut peut-être estimer que l'industrie de la musique a touché un fond dont elle ne peut plus que remonter, même si après, il y a des problèmes plus structurels qui sont... l'attrait, l'appétence pour le format CD, par exemple, mais c'est bien, parce qu'il y a aussi des relais dans l'offre légale qui font que le choix n'est plus juste entre le CD d'un côté et le peer-to-peer de l'autre. Il y a heureusement maintenant des choix légaux, intermédiaires, avec du choix, de l'accès immédiat.
Le logiciel libre est un excellent exemple là-dedans.
évidemment, nous, on donne librement accès à notre code source, et il y a une majorité des développeurs du logiciel libre qui se font payer pour ça. Donc, il y a vraiment d'autres moyens.
Que... Justement, le logiciel libre est vraiment la première initiative qui a développé le modèle, n'est-ce pas ? Et qui donne justement cette possibilité de... j'ai une voix de nom partout. une des solutions, quand même, c'est de donner une partie du service gratuit et puis une solution plus poussée où là, il faut payer.
Ouais, là c'est un résumé un peu hâtif du logiciel libre. Un logiciel libre...
Non, mais c'est-à-dire que le logiciel libre, il a réussi à séparer le coût, entre guillemets, de la transaction. Moi, je sais, j'ai par des débats sur Internet où les gens ne comprenaient pas, mais profondément, comment, pour eux, il y avait d'un côté les gens qui vendaient du logiciel propriétaire et qui étaient des gens sérieux avec des cravates qui gagnent leur vie, et de l'autre côté, des barbus rigolos et des chemises à fleurs qui vous donnaient du logiciel et qui avaient donc évidemment...
Et en plus, il marche et en plus, il est sécurisé.
Alors ça, en dehors de leur qualité intrinsèque. Et finalement, ça y est, maintenant, l'évolution des esprits commence à se faire et on comprend qu'il y a plein... IBM, quand ils vous vendent... C'est un truc que j'ai écrit dans une note un jour. IBM, quand ils viennent vous vendre du Linux, ils vous disent pas « Ouais, ouais, fight the power ». Non, non, pas du tout. Ils ont des blazers bleus et ils vous font signer des contrats. Donc, tout à coup, il y a de magnifiques réussites. Quand on voit... comment s'appelle l'ancien patron de Business Objects, je vais faire appel à Jean-Michel Planche. Ouais, Bernard Liotto, qui est l'une des success stories du logiciel en France, et il faut dire qu'on n'en a quand même pas beaucoup, qui vous dit, pour moi, la prochaine success story sera le logiciel libre. Je pense à des boîtes comme Talend, qui malheureusement se sont exilées, parce que finalement, pour devenir un acteur mondial, c'est plus simple quand on démarre de Palo Alto, mais qui ont mis leur en ligne gratuitement, qui sont utilisés maintenant par je ne sais plus combien de dizaines de milliers d'entreprises dans le monde, toutes les entreprises du Fortune 500 et qui gagnent un fric fou. Bon, là, on a quand même réussi, à découpler le logiciel de la transaction et en plus à en faire un modèle économique vertueux. Donc, vous
voyez. Pas assez d'ailleurs.
C'est qui ?
Nous, par exemple, on fait du logiciel en France, on le vend partout dans le monde, mais le problème, c'est que les médias ne s'intéressent pas assez à des réussites qui existent aussi depuis la France.
Là, c'est le compte effronda français.
Ouais. Quoi.
Ça, c'est un vrai problème. On en parlait avec Nicolas. Dans le logiciel, souvent, on est considéré comme les pieds de la table, alors que ce qu'on voit, c'est plutôt ce qui est dessus et le banquet. Et effectivement, malheureusement... certains médias ont plutôt tendance à parler d'épiphénomènes parce qu'ils existent en Californie ou parce qu'ils ont fait je ne sais pas trop quoi. Et on a beaucoup de mal à attirer leur attention pour leur dire qu'il y a aussi des réussites dans le logiciel qui sont possibles depuis la France, qu'on peut aussi attaquer le monde depuis la France, qu'on a des positions intéressantes. Et malheureusement, on a une difficulté d'écoute de la part des médias qui préfèrent... autre chose, donc c'était un message personnel, je n'avais pas le micro, mais pour te dire que parle aussi des sociétés françaises qui ont aussi de grandes réussites.
Allô ? C'était donc le procès des médias.
Ils sont aussi très, très, très forts en marketing, ces Américains. Donc,
Mais c'est là aussi, alors attendez, vous parliez d'esprit fondeur français.
Spotify, sauf erreur de ma part, n'est pas américain de source.
Ouais.
Donc on peut aussi faire des choses. Bon, il n'y a pas que la souhaite.
Mais alors là, je vais vous objecter un truc et donc, ça me permettra de détourner le procès des médias sur le non-soutien à l'innovation française. Parce que merde, moi je fais ma part du boulot. Le pas assez. Vous savez que dans la société, dans la vie d'Orbal, Jean-Michel Planche, on l'appelle le schroum grognon. Pour avoir entendu le témoignage de, par exemple, le patron de Talend, il n'était pas élève de cette école, d'ailleurs. Non, je confonds. Lui dit pourquoi il a fallu qu'on s'exile en Californie, puis après on reviendra au sujet. Tout simplement parce que si j'en avais juste développé la même solution en France, elle a été développée par des Français, cette solution, si vous allez voir un gros client et que vous êtes une petite boîte d'ici des Moulineaux, le gros client va vous dire « ouais, c'est intéressant ». Si on lui présente, attendez, ça sort de la bouche du cheval, ça. Hein. Si on lui présente la même solution, présentée même par des Français, mais qui vient des États-Unis, eh ben, tout à coup, la même solution a beaucoup plus de chances d'être prise. C'est ce qu'on disait souvent sur, vous savez, un directeur informatique qui vous dira « personne ne s'est jamais fait virer pour avoir acheté Microsoft ».
C'est vrai, tu as raison, je l'ai vécu. C'est-à-dire, le logiciel fait en France, quelque part, peut faire peur. Et un jour, il y a très longtemps, c'était il y a 20 ans, à l'époque d'Unix Micropore, de Telnos et tous ces trucs-là, une boîte a monté une société de distribution aux États-Unis et a fait croire que le logiciel venait des États-Unis pour le réimporter en France, et ça a eu un succès fou. C'était un des premiers traitements de texte aux Unix. Je suis d'accord. Maintenant, quand même, juste, mais ça dépasse le cadre du sujet, mais je pense que c'est important pour vous. Oui, c'est dur en France. Oui, c'est compliqué. Maintenant, on a des mesures, on a des choses. Et c'est pour ça que les politiques ne doivent pas faire n'importe quoi avec le numérique et nos technologies. Mais croyez-moi, quand on a un sac à dos, quand même, pour courir, qui peut être un peu chargé, bien quand on va à l'international, des fois, le sac à dos, il s'allège et on peut courir effectivement beaucoup plus vite. Oui, l'Europe, c'est dur. Il y a plein de pays. Comme vous avez vendu à un Français, eh bien, ça n'existe pas, cette histoire d'Europe. Il faut refaire le travail pour convaincre des Espagnols. Il faut refaire le travail pour convaincre des Anglais, des Italiens, etc., etc. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on peut aller en Asie, on peut aller aux États-Unis, on peut, etc., etc., alors que l'Américain, lui, il a son marché intérieur, il a son marketing unitaire, il a son truc, c'est tout de la même façon, etc. Il n'a pas forcément l'habitude de savoir parler un Espagnol, un Italien, un Portugais, etc., etc. Donc, on a aussi des avantages. Puis, ça vaut la peine de la tenter, l'aventure en France. D'où les médias, parler plus des gens qui réussissent ou qui essayent depuis la France, plutôt que toujours les mêmes, les quatre gus dans un garage qui vont essayer. C'est pas ceux qu'on aime bien, c'est les autres qui partent et qui font un truc en Californie et UKD. Arrêtons le truc, quoi. Il y a des gens qui se battent pour qu'en France aussi, on fasse quelque chose. Et pour qu'on fasse quelque chose, on a besoin de jeunes, on a besoin d'éducation, on a besoin d'infrastructures, on a besoin de politiques qui ont un niveau de conscience, qui comprennent les enjeux et vers quoi on va, plutôt que derrière, aller tous foutre le camp là-bas.
Alors justement, vous voulez, on parlait de logiciels. Dans les décrets d'application, dont j'ai apprécié qu'ils eussent été publiés avant le 31 décembre, parce qu'on aurait pu parler de choses parfaitement concrètes, on attend les contours de ce que la loi appelle le fameux logiciel de sécurisation. En clair, on dit oui, de fait, sécuriser son accès à Internet n'est pas chose facile, et pas forcément à la portée de n'importe qui. Donc la loi prévoit une solution qui sera d'aller chercher ce qu'elle appelle un logiciel de sécurisation qu'on installerait sur son PC et qui permettrait, au cas où on serait incriminé à tort, de faire preuve de sa bonne foi. Je vois Jean-Michel Planche forcément très dubitatif, j'en attendais pas moins. Ce logiciel-là, ou plutôt ces logiciels-là, parce qu'ils seront nombreux, ce n'est pas un logiciel standard qui sera fourni par la force publique, en tout cas, ce n'est pas ce que porte le projet de loi, ils seront développés par des éditeurs privés. Qu'est-ce qu'on sait du cahier des charges du logiciel? Comment ça va fonctionner, Guimond Lier?
On n'en sait pas grand-chose, parce que la loi même, elle dit pas forcément qu'il y aurait plusieurs accès.
C'est pour ça qu'il faut des décrets d'application.
C'est pour ça qu'il faudrait des décrets d'application, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont du mal à sortir aussi, parce que ça a l'air d'être un challenge assez incroyable. La dernière fois que j'ai rencontré Bervino, c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit, on va avoir pas trop de mal à trouver une présidente pour la DOPI. Ils l'ont trouvé.
Ouais.
Par contre, effectivement, le logiciel de sécurisation, et nous, c'est ce qui nous a fait rapidement tilter. Tu vois qu'on avait compris les problèmes de sécurisation juridique. Ce logiciel de sécurisation, on a très bien compris, et en plus le rapporteur ISR nous l'a dit, il ne serait pas interopérable. Donc, ce n'est pas interopérable, c'est un peu difficile de le faire avec du logiciel libre. Il sera labellisé, c'est-à-dire qu'on va arrêter une version, le ministère de l'Intérieur va regarder, arrêter une version, donc on ne va pas pouvoir faire ce travail contributif dont on a l'habitude, nous, dans le logiciel libre. Et donc, du coup, on a dit, on allait voir ISR, on lui a dit, mais c'est un peu bizarre quand même, il y a une référence en sécurité de l'informatique, c'est le logiciel libre. Parce qu'avec ces milliers de dieux qui viennent regarder le code source, on arrive à faire les logiciels qui sont les plus sécures au monde. Nos OS sont les plus sécures au monde, nos pare-feux sont utilisés sur même la box les box de nos grands-mères. C'est un peu étonnant qu'un logiciel de sécurisation soit invalide avec le logiciel libre. Et on s'est aperçu, en fait, qu'en lisant les différentes littératures des institutions, que, en fait, ce logiciel de sécurisation, c'était plutôt un logiciel d'espionnage. C'est-à-dire que le ministère de la Culture allait pouvoir, comme ça, récupérer ce qui sort de notre ordinateur et pouvoir détecter si, ce qu'on a fait sur Internet et si les accusations de l'industrie culturelle correspondent un usage effectif. Donc, grosso modo, ce qu'on va avoir,
c'est quand même le but. C'est de dire, si l'ADOPI vous envoie un mail en disant « Regardez, tel jour, à telle heure, un usage indésirable a été fait de votre abonnement », le but, c'est que vous pour que le logiciel puisse dire, bah non, regardez, tel jour à telle heure, un, j'étais pas là, deux, la machine n'était pas allumée, ou trois, je faisais tout autre chose.
Oui, mais donc ça veut dire que techniquement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une caméra de vidéosurveillance dans notre salon. C'est ce que ça veut dire.
Je suis toujours dubitatif sur les raccourcis sur les caméras,
le logiciel va récupérer tout le flux qui sort de notre ordinateur et va être capable de l'analyser.
C'est le flux non, peut-être. Regardez, aujourd'hui, votre opérateur mobile, c'est évidemment, et il est d'ailleurs tenu par la loi d'en garder une trace, c'est qui vous avez appelé, quel numéro, à quelle heure, combien de temps.
Est-ce qu'il sait ce que vous avez dit? Parce que
non, c'est le logiciel en question non plus, il n'a pas besoin de regarder le contenu.
Ah, parce que si moi je télécharge en BitTorrent parce que c'est plus rapide, un noyau Linux, le ministère de la Culture, il va devoir savoir que j'ai téléchargé un noyau Linux plutôt que le dernier Britney Spears que je ne téléchargerai pas. Ou alors, ça veut dire que dans ce cas-là, nos usages... Nos usages qui sont si efficaces vis-à-vis de la sécurité sont totalement invalidés. Donc, et c'est pour ça que je suis très... Quand Berbino parle de Deep Packet Inspection, ça, c'est de l'inspection applicative. Eux, ils doivent s'intéresser au contenu et c'est impossible de s'intéresser au contenu. Ils sont échangés, sinon faire de l'espionnage. Ce sera un moucheur, le logiciel de sécurisation. Et c'est obligatoire.
Je suis très triste qu'on n'ait pas de décret d'application.
Non, mais... Alors, je souscris à pas mal de choses, mais en plus, il y a un truc amusant, c'est la dérive. Vous avez vu que ce logiciel, on veut l'imposer pour une raison qui est pas mal. On nous explique que c'est pour nous dédouaner. Oh, bah, la plupart des Français vont dire, c'est vrai, je pourrais être accusé à tort. On est en train de me fabriquer un monstre dans lequel je pourrais être accusé à tort. Et en plus, les gars, ils sont sympas parce que avec l'autre main, la main gauche, ce qu'on appelle chez nous beaucoup sous Twitter, les Garcimorades. Vous vous rappelez, Garcimore, c'est le magicien. Le concept du magicien, c'est qu'il vous occupe l'esprit avec la main droite pendant qu'il fait autre chose avec la main gauche. Donc, pendant qu'on vous occupe l'esprit à ce machin-là, vous mettez votre logiciel et puis vous vous dédouanez. Moi, je suis quand même surpris que vous m'appreniez que ce truc-là pourrait envoyer à quelqu'un des informations sur ce que je fais, etc., etc. Et là, les dérives commencent à arriver, comme avec l'histoire du Deep Packet Inspection ou avec toutes ces choses-là, où on nous dit au départ, ben non, c'est que pour des raisons pour bloquer les images pédopornographiques qui sont à l'étranger. Alors, on va dire...
Ouais, et là, on sort du cadre de la DOPI, mais en même temps, on reste tout à fait dans le sujet des réseaux.
Moi, je le croyais. Moi, je suis un bonnet, je crois tout le monde. Moi, je croyais qu'effectivement, c'est poussé par la LOPSI, ministère de l'Intérieur, etc., et que la DOPI n'avait rien à voir là-dedans, puisque c'est des gars du contenu, c'est des gars de la musique, des machins, des trucs comme ça. Moi, je suis plutôt dans la technique, on travaille avec des opérateurs, des grandes entreprises. Bon, la DOPI peut un peu nous gêner, mais on a les moyens de gérer le problème. Mais je suis quand même très, très surpris quand M. Berbino, paf, il nous parle de filtrage, il nous parle de 10 paquets inspectés.
Alors le filtrage, il était déjà dans le projet de loi depuis le début.
Où ? Filtrage de quoi ?
Alors,
la LOPSI ou la DOPI ?
Je vous parle de la DOPI, moi.
Qu'est-ce qu'il voulait filtrer ?
Jusque-là, on parle évidemment du peer-to-peer, parce qu'évidemment, la DOPI, comme la DVSI avant elle, a été pensée pour le peer-to-peer, qui était le gros des échanges de fichiers piratés sur Internet. Or, évidemment, ce débat-là, il s'est déplacé au fur et à mesure que le haut débit est arrivé partout, au fur et à mesure que tout à coup, les moyens d'accès aux œuvres évoluent, le streaming, je n'apprends rien à Nina Svensson, le download direct, les newsgroups, etc., etc. À un moment, il avait même été question de dire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas surveiller les échanges par mail? Après, le législateur, finalement, est revenu à le meilleur sentiment en s'apercevant que les gens qui s'échangent des fichiers vidéo ou des fichiers MP3, on se les envoie par mail, finalement, c'est d'un usage assez limité. Ce que disait le projet de loi, c'est que les ayants droit pourraient faire constater que leur œuvre est échangée, copiée, piratée par un site particulier, et le juge pourrait faire prononcer toute mesure visant à faire cesser ce trouble, comme on dit en droit français. Et là, évidemment, les ayants droit pourraient se retourner vers, par exemple, les fournisseurs d'accès, en disant, regardez, tel site russe permet de télécharger directement mon film, ma musique, mon bouquin, ma série, que sais-je encore, d'où l'exigence de filtrage.
D'où ? Alors, ce n'était pas d'où l'exigence de filtrage, d'où certains, alors tu vas appeler ça des schtroumpfs-grognons, qui se sont réveillés en disant, attendez là, la Garcimorade, là, elle est à fond. C'est-à-dire que sous prétexte, effectivement, qui est un prétexte louable, toute peine mérite salaire, etc., etc., tout travail, bon, de rémunérer les artistes, les auteurs, etc. On en est en train de dériver. Là, on est sur la dérivée seconde hein, du problème. Hein. On est en train de passer sur la dérivée du truc pour nous dire qu'il va falloir que cesse le trouble à l'ordre public. Parce que souvent, c'est comme ça que c'est un peu exprimé quelque part.
C'est très souvent comme ça que la loi exprime le problème.
C'est quand même un truc très, très étonnant. Donc, on s'est tous battus en disant, attention, là, il y a un truc, là. Mets le doigt sur quelque chose de grave et extraordinairement important. Soyons très attentifs. Tout ça corroboré par quelques mois après est arrivé quand même l'histoire de la LOPSI. On a été relativement peu à dire aux gens, réveillez-vous, ça va être le prochain truc qui va faire du bruit de façon spectaculaire. La LOPSI, c'était tout un ensemble de mesures, dont une qui était, il faut s'occuper de l'histoire de la pédopornographie, c'est inadmissible, là je le maintiens, je le clair, c'est
quoi, inadmissible. Qu'on s'occupe de la pédopornographie ?
Qu'on s'occupe de la pédopornographie et il faut lutter contre ce truc-là,
ah,
c'est clair.
C'est dans ce que la pédopornographie qui est inadmissible et pas le fait qu'on s'en occupe.
De cette industrie.
Précision sémantique.
Voilà. Il faut s'en occuper. Pour s'en occuper, bah, c'est comme toujours, quoi. Quand il y a un problème, je l'analyse. Où vient l'ordre, le trouble à l'ordre public ? Bah, on en a en France et on en a à l'étranger. En France, on peut appliquer la loi, donc ça va. À l'étranger, on peut.
C'est-à-dire qu'on peut agir à la source. On peut aller voir l'hébergeur, la société.
Ah, donc on peut les prendre, on peut leur imposer des choses. À l'étranger, on n'y arrive pas. Ça, comme un dogme. Donc, à partir de ce moment-là, il va falloir les bloquer. Il va falloir faire de la ligne Maginot. On est bien en train de parler de ça. On est en train de parler d'une ligne Maginot qui dirait il y a un territoire sain dans lequel ça va plutôt bien. Et puis, il y a l'extérieur, qui est un monde dangereux, un monde compliqué, plein de logiciels libres, plein de gars avec des vestes à fleurs, et puis avec aussi des pédopornographes, etc. Ça fait des trucs terribles. Donc, il va falloir s'en occuper. Donc, pour ce faire, on a fait un raccourci. On s'est dit que la solution, c'est le filtrage. Et qui est-ce qu'on peut attraper dans le filtrage ? Alors, on regarde, on met dans le tamis, qu'est-ce qui reste ? Les opérateurs. Ah, bah ouais, c'est beaucoup plus simple. Donc, on va filtrer les infrastructures. Vous voyez, on a quand même d'un problème qui est un vrai problème, dérivé quand même pour arriver à un résultat qui est de se dire bon, on va attraper toujours les mêmes, c'est toujours de la faute de l'opérateur. Mais ce faisant, je ne sais pas si c'est le moment du débat où il faut en parler.
Alors c'est intéressant parce que, et là on dépasse largement le cadre de la DOPI parce qu'évidemment il y a la DOPI.
C'est Bernier qui revient dedans.
Et il y a d'autres choses, mais sur le principe. Le législateur, on va dire de manière générale maintenant, veut se donner les moyens de pouvoir bloquer une liste de sites. Si,
et pourquoi
Alors après, les raisons...
Parce que je n'ai pas fini jusque-là.
Ah, allez-y, après je vous parlerai de technique.
C'est-à-dire pourquoi il veut se donner ces moyens-là. D'abord, pourquoi il a raisonné comme ça. Je ne sais pas, moi, quand il y a un problème en tant qu'entrepreneur, j'essaye de structurer ce que je vais pouvoir changer dans mon quotidien pour influer sur les événements. Là, ils ont raisonné d'une certaine façon. Moi, j'aurais pu vous dire, OK, on va s'occuper de la pédopornographie, on va s'occuper des pédophiles et on va faire ce qu'il faut. J'aurais pu vous dire aussi, d'une autre façon, ben, on va s'occuper de l'autre problème de l'autre côté, c'est-à-dire de nos enfants, et on va essayer de monter leur niveau de conscience. Ça se passe par l'éducation, ça se passe par un écosystème à créer autour d'eux, etc., etc. On ne peut pas, parce que derrière, le gouvernement nous a dit, il y a un problème, j'ai la solution, je la mets en place, c'est le filtrage, considérer que nos enfants sont plus protégés ou moins protégés. Ce n'est pas possible. On le sait très bien, ils ne sont pas plus protégés parce qu'il y aura ce truc-là.
Le but n'est pas de protéger les enfants de la pédopornographie.
Alors, c'est quoi, alors, le but ?
C'est de protéger la population en général. Et puis, d'empêcher les échanges de
dimanche. La population en général, je veux protéger mes enfants. Je veux sécuriser ma connexion Internet. Vous avez vu le gars, là ? Je suis passé d'un truc égalitaire, c'est bien pour tous, à quelque chose de très personnel. Je suis un citoyen. Je veux sécuriser ma connexion Internet et je veux protéger mes enfants.
C'est louable, mais...
Non, c'est pas louable, c'est le but.
Oui, mais attendez... Un, vous avez la volonté de le faire, c'est-à-dire la connaissance du problème et l'envie de le régler, et deux, les moyens, ce qui n'est pas forcément...
Mais la question, elle existe. Si on discute un peu avec les gendarmes qui gèrent ces affaires de pornographie, en général...
Parce que ça, c'est pas nouveau, hein. Vous allez à Rony, ouais.
Et voilà. Avant l'Internet. Même, elle n'a pas eu tendance à augmenter depuis l'Internet, mais bon. Quand on a discuté avec les gendarmes, en fait, la majorité des requêtes, c'est des mères de famille qui sont totalement affolées par la sexualité naissante de leurs enfants. Et donc, des adolescents, ça chatte sur Internet. Et comme ils ne maîtrisent pas du tout...
Et ça va chercher des contenus bêtement pornographiques, là, pour le coup.
Oui, ou tout simplement, ça met la webcam et ça fait
Des bêtises.
Des bêtises ou pas forcément, enfin je sais pas, chacun est libre de développer sa sexualité.
Et on leur souhaite qu'ils ne les enregistrent pas, car sinon Facebook n'est pas leur ami.
Par exemple, mais c'est ça le vrai ressort. Soit on dit...
Kevin vous a tagué dans une vidéo, non?
Soit on dit la pédophilie, c'est pas bien, il faut la cacher. Et donc dans ce cas-là, elle deviendra souterraine. Et,
mais elle l'a toujours été.
Visiblement, on entend quand même plus le... C'est un, détection,
c'est un sujet de conversation constant parce qu'en même temps, voilà quelque chose qui ne fait pas débat. Personne ne vous dit oui, non, mais alors attendez, finalement, vous savez, les pédopornographes ne sont pas si méchants, ça n'existe pas dans le débat. Tout le monde est d'accord, il n'y a pas de nuance dans le jugement. C'est-à-dire que voilà, tout le monde a une espèce de réaction de nausée immédiate.
C'est un peu le nouveau.
Le boulot des. Etc. Mais je sais ce qu'ils ont d'ailleurs même soutien psychologique parce que c'est un truc, on rentre chez soi et on veut. Donc là, il n'y a pas de. Ce qui est d'ailleurs finalement un point d'entrée intéressant pour arriver à parler de technologie, parce qu'évidemment, si tout, autant sur les contenus culturels, moi j'ai tout entendu dans les débats sur Adopi, parce qu'évidemment, quand on dit mais regardez les contenus piratés, certains vous disent oui, mais non, c'est pas du piratage. Ah oui, d'accord. Donc, vraiment, pour reprendre le débat du début, ce qui n'est pas du tout le cas dans le cas de la pédopornographie.
Et le ressort, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean-Michel, il est social, c'est-à-dire que c'est pas en filtrant des éléments qu'on va réussir à résoudre le problème de la pédophilie. Tout le monde est contre la pédophilie et on va réussir à le résoudre socialement.
On en est conscient, il faut monter le niveau de conscience, le niveau de vibration de conscience de chacun, c'est évident, et le système éducatif a sa responsabilité là-dedans, et nous aussi, en tant que père de famille, etc., on a tous, voisins, etc., notre responsabilité, la technologie peut nous y aider d'ailleurs, mais le sous-jacent derrière ce truc-là, c'est qu'une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a transformé des infrastructures de type Internet, je vous rappelle quand même que ces infrastructures de type Internet, on parle souvent des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais on ne parle jamais de l'Internet qui a sauvé des vies. Aujourd'hui, en Haïti, il y a un problème énorme. L'Internet marche. L'Internet a permis que les citoyens puissent aussi communiquer les uns avec les autres. D'ailleurs, par la magie de l'Internet, à 9h50, normalement, je parlais sur Radio France de ce sujet-là. Il y a des choses qui sont en train d'arriver, effectivement, grâce à l'Internet. L'Internet, pourquoi ça continue à marcher? C'est parce que ce machin-là n'a pas de centre. On ne peut pas détruire son centre, donc il peut résister à un tremblement de terre ou à un sinistre total. En essayant de transformer l'Internet dans un espèce de réseau régulé, ce que j'appelle souvent un Minitel avec Benjamin Bayard, un Minitel 2. On a eu le Minitel 1, globalement, ce qu'on essaye de faire, c'est un Minitel 2.
Vous savez, bientôt, il faudra expliquer aux gens que vous aurez devant vous ce qu'est un Minitel.
Mais ils savent, 3615 ULA, tout le monde s'en rappelle de ce truc-là.
Je suis pas sûr.
Minitel 2. Mais si, sinon ils riraient pas, bien sûr. Arrête de me faire passer pour un vieux schnock. En transformant l'Internet où nous sommes tous égaux, c'est du pair à pair, en quelque chose où je suis plus égal que vous, dans le sens où j'ai un micro et je peux crier plus fort, et où je peux vous imposer ma loi, je peux vous imposer mes services, je peux vous imposer mon contenu et mes machins, demain c'est Spotify qui ne peut pas exister. Demain il aura besoin de demander l'autorisation pour exister. Donc j'en reviens sur mon affaire de filtrage. À partir du moment, et ça c'est ce qu'on a dit aux politiques, on en a fait un pari avec eux, on leur a dit, je vous parie qu'à partir du moment où on va accepter le fait qu'effectivement, pour des raisons louables, combattre la pédopornographie, nous allons filtrer les infrastructures de l'Internet. Les infrastructures quand même, le cœur métier, le cœur réseau. Nous allons donc commencer d'abord, on leur a expliqué, nous allons déstructurer la philosophie initiale de l'Internet, d'égalité, machin, de pair à pair, etc. Nous allons repousser les routages et les possibilités de décision le plus loin possible de vous, alors qu'a priori, on devrait le pousser le plus proche possible de vous. On va le repousser plutôt, on va recentrer les choses. Et à partir du moment où on aura fait ce truc-là, eh bien, vous pouvez être certain, c'était le pari qu'on avait pris avec certains politiques, vous pouvez être certain que vous allez avoir tous les ayants droit qui vont faire la queue de celui qui a les doigts sur le bouton pour dire... Oh ben, faudra me filtrer ce truc-là parce que ça.
Mais
me plaît pas.
Ça, c'est prévu dans la loi, sinon que les ayants droit se retourneront vers le juge.
Non. Si on parle de la LOPSI. La LOPSI, ah, oui. C'est clairement que pour des histoires de pédopornographie. Point. Donc, c'est pas discutable, c'est que ça. Et on leur a dit, même sous ce prétexte, à partir du moment où on aura ouvert la boîte de Pandore, Vous pouvez être certain derrière que les ayants droit de Pascal Nègre passant par derrière tous ceux dont le parti politique de l'un, de machin, de bidule ne plaît pas, eh bien vont venir faire la queue pour qu'on puisse modifier chez les opérateurs leurs réseaux et leurs infrastructures pour que n'existe qu'un contenu, n'existe que des services qui plaisent à la plupart des gens. Et la plupart des gens, c'est pas vraiment la plupart des gens, c'est là où ça commence à me gêner, parce que si c'était la plupart des gens, ça pourrait s'appeler encore une démocratie. Alors qu'on sait très bien, et je suis un peu désolé d'être un peu vindicatif, et ça serait bien aussi de parler des solutions possibles, c'est pas la plupart des gens dans ces cas-là qui s'expriment. C'est quelques lobbies puissants qui peuvent dire « Oh, bah Spotify, ce truc-là, vous êtes sûr, c'est suédois, ça paye bien ses taxes en France, ce machin-là. Non, 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 on va derrière appuyer sur le bouton. Paf !» Et s'ils appuient sur le bouton, ça disparaît. Ça n'existe plus. Là, ça pose un problème sur notre capacité d'innovation et d'entreprendre en France. On a besoin d'infrastructures, on n'a pas forcément besoin de tuyaux qui se branchent derrière sur nos capacités, qui les remontent pour que ce soit toujours les mêmes qui puissent en profiter économiquement. Il n'y a pas Google là-dedans qu'il faut viser, c'est aussi tout un mécanisme.
Bah, j'ai une question qui est purement technique, c'est j'ai donc cette liste noire de sites dont il est indésirable que les internautes français puissent y avoir accès. Je me retourne donc vers les fournisseurs d'accès. À partir de ce moment-là, comment ça marche? Il y a plusieurs façons de faire.
Ah, je voudrais déjà vous dire quand même que ce problème, il n'est pas nouveau. Il y a déjà des gens qui ont trouvé des solutions. Le système académique ou les réseaux académiques français se sont déjà organisés. Il suffit d'aller voir via Reninter et tout ce truc-là. Il y a des gens qui entretiennent des listes, qui gardent suffisamment secrètes quand même pour pas que ça soit publié par n'importe qui, n'importe quoi, et qui peuvent décider d'utiliser ou pas ces listes pour effectivement se protéger. Ouais, dans les solutions, moi, j'aime bien des trucs, moi. Vous savez, sur Internet, il y a eu une grande blague à un moment donné, c'était le routeur Adopi. Ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il y a quelques mois ou quelques années, j'avais préconisé le fait qu'on fasse un routeur ou quelque chose qu'on mette à la maison, comme un tableau électrique, qui me permette de gérer ma propre sécurité, avec du logiciel libre d'ailleurs, et qui puisse me dire, voilà, bah, ce type de contenu, j'en veux pas. Ce type de contenu pour mon profil d'enfant qui a 7 ans, j'en veux pas, etc. etc. Bah, les universitaires le font et s'organisent.
Il y a peut-être un marché, là,
pour faire
des boîtes de logiciels français dont on parle à la télé.
C'est plus qu'un marché, c'est un écosystème à créer. Regardez les réseaux électriques. Pourquoi c'est dangereux un réseau type Internet? C'est parce que c'est un réseau de flux. Tous les réseaux de flux sont des réseaux dangereux. Avec l'électricité, je peux faire brûler mon quartier. Avec le gaz, je peux faire exploser mon quartier. C'est quand même super dangereux, ce truc-là. Sauf que ces réseaux de flux, on a eu un siècle pour s'habituer et on a créé l'écosystème pour nous y habituer. Moi, je suis encore, on l'a dit, un vieux schnock. Je fais encore partie de ceux qui ont mis les doigts dans la prise de courant pour voir ce qui se passait et qui ont joué avec l'électricité. Combien ici on jouait avec l'électricité réellement? Alors, bravo. Mais vous voyez, ça se fait plus. Nos enfants n'ont plus cette habitude, et c'est tant mieux.
On a habitué. De mettre les doigts dans la prise, c'est peut-être une bonne chose.
Mais... Oui, mais j'ai pas dit le contraire. Je suis en train de te dire qu'on s'est habitué au caractère dangereux du truc, et ce n'est plus un problème. Sauf qu'avec Internet, on n'a pas un siècle de recul. On n'a pas vu apparaître la domotique il y a 10 ans. Donc c'est normal, il faut se bouger.
Très, très jeune industrie.
Pour répondre à ta question, comment donc nos amis ont essayé de la structurer? T'as vu, hein, à travers
le temps, je commence à avoir l'habitude.
Comment ils ont réussi à le dire? Ben, ils se sont dit, ah ben, on ne sait pas le faire. On ne va pas parler à chacun d'entre vous parce que ça va être trop long, trop compliqué. Vous ne serez pas assez responsable, vous ne serez pas assez adulte vis-à-vis de ce problème. On va donc trouver quelqu'un à qui on va pouvoir imposer les choses et on va essayer de trouver des solutions. Donc évidemment... opérateur, on va taper là-dessus, il faut filtrer au niveau des infrastructures, il faut filtrer au niveau de dispositifs un peu centraux. Alors pour ce faire, ils ont inventé plein de systèmes. Aujourd'hui, a priori, il n'y a pas eu de décret d'application, on ne sait pas comment ça va se passer, mais on peut être inquiet, comme M. Berbineau n'arrête pas de nous parler de l'Australie en tant que système référent et du Deep Packet Inspection en tant que solution.
On explique en deux mots ce que c'est que le Deep Packet Inspection, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure.
Ils savent tout, mais globalement, pour filtrer, quand vous voulez filtrer des trucs... Il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est de ne pas répondre à la requête. Donc, c'est plutôt du côté des DNS, des systèmes, des serveurs de nom et de ces machins-là, où vous allez dire, bon, ben voilà, epita.fr, ça ne me paraît pas bien, spotify.com, c'est pas bien, je ne répondrai plus jamais à cette adresse. Ça paraît dur, hein, parce que peut-être qu'il y a des trucs pas si mal quand même dans Epita. Il y a peut-être un serveur qui peut poser problème, mais il y en a peut-être des centaines qui sont très bien.
Non, il n'y a jamais de problème de sécurité à l'Epita, arrêtez de dire des bêtises.
On est d'accord. Deuxième solution qui est encore plus marrante, ce que j'appelle Pakistan kills the video star. J'avais fait un article là-dessus. C'est l'histoire du Pakistan et de YouTube. Vous vous rappelez de ce truc-là ? Pakistan se dit un jour, oh, Google et YouTube, bon sang de bois, si on veut pas de ce truc-là. C'est-à-dire que derrière, je veux pas que mes concitoyens accèdent à ce contenu qui pourrait choquer mes concitoyens. Comment on fait pour foutre le bazar dans un pays ? Et dans l'Internet, je vous rappelle que c'est collaboratif, c'est du pair à pair, etc., etc. Eh bien, on annonce des routes dans l'Internet. On se dit, bah tiens, moi, demain, je vais annoncer YouTube et je vais dire que c'est moi la personne qui connecte YouTube. Et les paquets, si les gens sont suffisamment incompétents, les paquets vont être aspirés comme une sorte de trou noir et on va bloquer. Le problème du Pakistan, c'est qu'il était connecté par un opérateur qui lui a fait confiance et carrément, il a propagé la route, il a propagé dans le monde entier le fait que YouTube, c'était aussi aux États-Unis, mais c'était aussi au Pakistan. Donc, ça a foutu une panique mondiale. Et deux jours après, tout le monde a rigolé. Le Pakistan a fait marche arrière très rapidement parce que, bon, ils ont trouvé d'autres solutions. Ça, c'est une piste qu'effectivement, on commence à réfléchir en France et à la limite, qui n'est pas idiote, les opérateurs là-dessus, ça leur plaît plutôt bien puisqu'ils se disent, a priori, ce n'est pas moi qui vais filtrer. D'abord, moi aussi, ça me plaît bien puisque, premièrement, on ne touche pas aux infrastructures essentielles d'un opérateur, on ne tripote pas, on ne fait pas n'importe quoi et sous peine d'injonction du ministère de l'Intérieur ou de n'importe quoi, on n'est pas en train de mettre à jour des tables, oui, non, etc. chez l'opérateur, donc on peut avoir une certaine stabilité. Et il nous faut donc une autorité, qui pourrait être M. Berbineau, hein, bientôt un AS Berbineau, qui va donc annoncer ses propres conneries. J'annonce... je ne veux pas annoncer de chiffres, hein. Chaque opérateur ou chaque réseau dans l'Internet est identifié sous la forme d'un numéro. À l'époque, Oléane, c'était 2917, le 2917e réseau existant. L'EPITA, c'était combien à l'époque ? À l'époque, vous n'aviez pas d'AS ? Aujourd'hui, Whitby, c'est 15436. Je ne sais pas à combien on en est, on doit être à 30 000, 50 000, etc. Chaque opérateur qui annonce des choses sur l'Internet a son propre numéro. Donc, M. Berbineau, pour faire ça, ou d'autres, auront leur propre AS et vont annoncer les AS des autres, et puis ça va le trafic va se gluter, va s'attirer.
Se gluter.
On va gluter le truc. C'est-à-dire que derrière, le trafic, plutôt que d'aller à la bonne destination, va aller dans /dev/nul, à la poubelle, quoi, directement chez eux. Ça, c'est une solution. Moi, je fais des paris, hein. Je me dis 40% de chance, ce truc-là. 60% de chance, c'est la troisième catégorie. Il y en a plein d'autres, hein, mais on va dégager, on va aller vite. C'est le Deep Packet Inspection. Alors ça, c'est un truc qui est satisfaisant parce que c'est sympa quand même. En gros, c'est quoi ? C'est comment ça s'appelait là, les Checkpoint Charlie. Vous savez, Checkpoint Charlie, vous vous rappelez ce que c'est ? Vous avez fait un peu d'histoire quand même ici ? Bon, c'est le truc où derrière, j'impose tout le monde, il faut que ça passe par là. Et je vais aller regarder quand même qui vous êtes, ce que vous faites, où vous voulez aller. C'est une sorte de douane numérique, quoi. C'est super à l'ordre du jour, ce truc-là, le Checkpoint Charlie, parce que je vais pouvoir effectivement me dire, ah, ça, c'est du contenu pédophile qui est hébergé à l'étranger, je ne peux pas agir sur l'étranger, donc je le bloque à la source. Donc je le bloque à la source, c'est nous qui le demandons, ce contenu. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas la destination. Mais ça va être aussi, tiens, il y a Monsieur Nègre qui me dit, Pascal, qui me dit... de Johnny, il a été piraté à cet endroit par cette personne et ce machin, etc. Comme j'ai un Checkpoint Charlie, je vais pouvoir dire « Ah, là, il ne faut pas y toucher. » Il ne faut pas y toucher à ce contenu. Ce contenu ne doit venir que de sources légales qui sont machin, bidule, truc, chouette. J'espère que Spotify sera toujours dans la liste de ce qui sera annoncé. Bon, parce que demain, on peut dire « Bon, non, Spotify, ça ne m'intéresse pas qu'il soit dans cette liste. Je vais donc les bloquer. » Mais plus grave, une fois que je peux à peu près bloquer tout ce que je veux, ça peut correspondre aussi à la volonté de se dire que, ça, je vous annonce le nouveau scope qui est en train d'arriver, Adopi, l'OPSI, il y aura une troisième loi en I, et on l'a vu avec la taxe Google, c'est les taxes qui visent à viser le numérique. C'est-à-dire que, et certains politiques sont encore en train de l'annoncer, j'en ai fait un article, j'ai répondu à Jean Dionis du Séjour sur son blog sur ce sujet-là, il faut vraiment le lire, c'est vraiment important. Certains sont en train de se dire il y a la disparition d'un ancien monde et l'apparition d'un nouveau. L'ancien monde, bah, c'est le monde bien matériel, le monde des tâcherons, le monde de la labeur, de la sueur, etc. C'est l'industrie. Et le nouveau, c'est les Google, les gars avec chemise à fleurs, la Californie, UKID, qui nous pillent, qui nous volent, nos femmes et nos compagnes, je vous passe les détails. Ces trucs-là, c'est pas normal quand même, ils font un argent fou. Nous, derrière, on, au quotidien, on trime 35 heures, c'est pas normal, il faut donc les taxer. Ce qui d'ailleurs a un bon écho, parce que les opérateurs eux-mêmes, à juste titre, se disent « Mais bon sang, moi je mets en place des infrastructures, je m'empoisonne pour aller jusqu'à la grand-mère de Cédric, je finance sa box et vous me râlez sur son caractère qui n'est pas forcément très ouvert, c'est moi qui fais tous les financements pour que ce soit que le seul Google qui en tire les bénéfices. C'est normal, allons-y, taxons !»
Surtout pour objecter que les fournisseurs d'accès sont... Parce que jusque-là, on parlait depuis le début de taxer les fournisseurs d'accès pour financer les contenus. Tout à coup, les fournisseurs d'accès apprennent qu'ils viennent de sortir de la cible. C'est à peu près la meilleure nouvelle de l'année.
Oui, sauf que derrière, tu as entièrement raison de
tout. C'est revenu plusieurs fois dans les débats. On a dit, mais finalement, il suffirait de prélever à la source chez le fournisseur.
Sauf que c'est faux, parce que l'idée sous-jacente derrière, et vous verrez... Excusez-moi, c'est tellement... C'est faux. Juste lire et écouter. Un politique, un jour, a expliqué, c'était dans une université politique, je vous dirai pas lequel parti, j'avais été invité, j'ai écouté, les bras m'en sont tombés. Il nous a expliqué la bataille des nomades contre les sédentaires. Jusque-là, rien de nouveau. Et il nous a expliqué que dans toute la civilisation de notre, du monde, les sédentaires ont toujours été ceux qui ont travaillé, ceux qui ont trimé, ceux qui ont créé de la valeur. Et les nomades, les gars qui leur ont piqué, qui n'avait pas de patrie, pas de foi, pas de loi, et qui allait la vendre où ça valait bien, au plus cher, etc., etc., que c'était pas normal, etc., etc. Sauf quand même à rappeler que, grâce à ces nomades, M. Rothschild a inventé la banque. Tout ça, c'est... Je passe aux oubliettes. Pour en arriver à la conclusion, ce gros mieux, qui sont les nomades de notre temps, qui sont les sédentaires de notre temps? Les sédentaires, c'est tous ceux qui se plaignent. Qui ont du mal, c'est toutes les industries en décomposition, recomposition, qui ne veulent pas se réinventer en comprenant le numérique qui quand même existe depuis au moins 20 ans, c'est tous ceux qui ont des problèmes justes ou injustes, mais qui ont vraiment des problèmes, je ne veux pas masquer la difficulté. Et qui est le nomade? C'est le numérique. Ce sont les acteurs du numérique. Cette espèce de nouveau monde, alors évidemment avec certains emblèmes, les Google, les machins, bientôt Spotify... tous ces gens-là, ces acteurs du numérique, il va falloir qu'ils financent. C'est pas possible, ils font rien, ces gars-là. Nous, on bosse d'un côté, nous, on finance les artistes, on fait de la promotion de leurs concerts, on paye, nous, opérateurs. Enfin, et ce que les opérateurs ne voient pas, c'est qu'ils sont eux aussi les acteurs de la transformation du numérique et la taxe leur reviendra. C'est un mouvement de fond qui est de se dire qu'effectivement, toute cette industrie, et toi aussi, Cédric, tu es un acteur du numérique, tu vas payer.
J'en prends bonne note. Est-ce qu'à votre sens, on peut faire... Enfin, comment dire?
C'est clair.
Ah, c'est limpide. À vos yeux, est-ce qu'il y a... On a vu, il y a plusieurs moyens possibles de filtrage. Est-ce qu'à vos yeux, il y en a un qui soit techniquement acceptable? Pour vous, c'est le DNS? C'est d'envoyer des requêtes vers nulle part?
Excusez-moi de monopoliser la parole. Aucun moyen n'est acceptable. Sauf celui... qui me responsabilise, dans lequel j'ai une capacité de l'accepter ou pas de l'accepter, celui dans lequel, qui respecte la philosophie de l'Internet première, dans lequel nous sommes, je vais vous faire mon quart d'heure, tous sommes tous
frères. Non, si possible, pas le quart d'heure.
Il n'y a aucun moyen qu'on m'impose qui est quelque part quelque chose d'acceptable. Pourquoi ? Ni plus ni moins, rappelez-vous ce que l'histoire a fait de nous, à un moment donné, certains se sont en place. Heureusement qu'on a pu des pièces, et heureusement que. J'espère que nous vivrons toujours dans un monde en paix dans lequel les règles démocratiques pourront s'exprimer, mais j'en suis pas vraiment sûr et j'en suis pas vraiment convaincu. Si vous n'en êtes pas convaincu, regardez l'histoire, ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'il y a 40 ou 50 ans, regardez ce qui se passe dans d'autres pays, et si ça vous embête, regardez les films de science-fiction. Je vous parle pas de 1984, je vous parle même, regardez le cinquième élément. Cinquième élément, c'est Besson, on peut pas dire que j'ai toujours du mal le monsieur Besson, là j'en dis du bien. C'est extraordinaire. La technologie a permis de façonner une ville en trois dimensions, ou tout au moins, parce qu'il y a de la technologie, la ville en trois dimensions existe. Quand le citoyen est en dehors de sa vie numérique, le citoyen n'a plus de vie. quand même quelque chose d'important. Donc la solution pour régler ces problèmes, qui en plus va permettre de régler le non-respect de la sécurisation de sa connexion Internet, c'est me donner les moyens à moi, citoyen, de contrôler ma propre sécurité avec un écosystème, avec des gens qui vont s'occuper du problème. Qui mieux que ça, qu'un logiciel libre me permettrait de le faire? Mais quand on emploie ce mot-là, c'est un gros mot, c'est pas possible. Oh là là, faut que ça soit un peu secret, faut que ça soit nos industries de défense qui s'opèrent cette chose-là. Non, moi je veux le choix, je veux pouvoir être mon propre ayatollah chez moi, et je veux pas imposer ma morale chez les autres. Donc oui, il y a d'autres moyens de le faire. Mais je ne veux pas imposer quelque chose sur l'existence qui pourrait peser sur l'existence et la réussite d'un Spotify. C'est son problème. S'il se met un jour hors la loi par rapport à une législation, c'est pas mon problème, c'est son problème. Et si un jour je veux pas que mes gamins utilisent Spotify, c'est mon problème et j'ai pas à l'imposer aux autres. Donc il y a des moyens, ça s'appelle simplement peut-être un routeur Adopi qui soit chez moi, dans lequel j'ai les clés, j'ai la capacité de le maîtriser. Je sais qu'il y a du logiciel libre dedans, donc a priori j'ai confiance. Ce n'est pas une boîte noire qui va faire n'importe quoi. Je peux moi-même le bidouiller et en faire des choses. Je revendique, comme certains, le droit de pouvoir bidouiller la technologie, qu'elle reste encore ou suffisamment ouverte. Et à partir de là, je pourrais choisir de me mettre en conformation avec la législation française, ou alors je pourrais choisir de me mettre en non-conformation, c'est-à-dire à ce moment-là de risquer des représailles que je peux assumer ou pas. Mais je veux pouvoir être un acteur de mon futur, de mon présent numérique et de mon futur. Je ne veux pas être que quelqu'un prenne en charge cette chose-là uniquement pour moi. Et ta grand-mère, on va me rétorquer qu'elle n'a pas les compétences pour se faire, mais ta grand-mère, elle a un petit-fils compétent, elle a un écosystème autour, il y aura du logiciel libre avec des gens qui sont concernés et compétents, le truc va marcher, on va augmenter le niveau de conscience de tout le monde, et on fera du nivellement non pas vers le bas, mais vers le haut, et ce n'est pas de l'utopie, ça peut marcher.
On m'a dit Jean-Michel Planche est un garçon un peu bavard.
Ça marche déjà de base. Et le Conseil constitutionnel a très bien délimité en tout cas ce qui était acceptable en termes de filtrage. Il faut que ça passe par un juge. On n'a pas le droit de couper la liberté d'expression, enfin d'interdire la liberté d'expression sans passer par un juge.
On a une constitution assez claire à ce sujet.
À ce sujet, et ils l'ont rappelé durant Adopi. Donc, à l'heure actuelle, le juge peut filtrer des contenus culturels. Il peut filtrer aussi des sites de gens en ligne, parce qu'on n'a pas parlé de l'ARJEL, mais ce projet de loi qui labellise aussi des logiciels et qui labellise des sites et qui est capable de filtrer sur intervention du juge. Donc, y a déjà, c'est relativement bien sécurisé au niveau légal. Après, on a vu que Berbino parlait la semaine dernière de l'Australie, on a vu aussi ce que ça donnait quand la liste était privée. C'est-à-dire qu'à un moment, la liste de filtrage qui n'était pas connue du grand public a été révélée sur Internet, et on s'est aperçu que sous prétexte de filtrer la pédopornographie, en fait, on filtrait un dentiste d'un petit état les États-Unis, on filtrait comme
qu'est-ce
ça.
Qu'est-ce qu'il faisait le dentiste ?
Il n'y a rien du tout.
Je crains le pire, j'ai des souvenirs. Non,
c'était juste qu'il y a des erreurs.
Et le film de Cronenberg, en fait.
30% effectivement de sites effectivement pédopornographes et le reste qui était simplement des erreurs. Donc quand Jean-Michel dit que ça doit être un contrôle qu'on doit faire les erreurs.
Il y avait des trucs partis pas humaines.
On n'aura pas, ce problème chez nous. Si on passe devant un juge, en tout cas, liste, on pourra se la constituer à la main. Elle sera pas.
A priori, il faut l'espérer, en tout cas. Mais c'est quelque chose qui est important. Et de fait, on filtre autre chose aussi. L'histoire d'eBay et de la vente d'objets nazis,
est illégal chez nous et en Allemagne, par exemple.
C'est une démonstration qu'on peut quand même contrôler un petit peu Internet, c'est-à-dire que socialement.
Qu'il y a des lois qui s'appliquent pays par pays et qu'il n'y a pas un Internet. Google est en train d'en faire la preuve à l'envers avec la Chine en disant allez, j'en ai marre de filtrer, je vais défiltrer et s'il le faut, je partirai. Jean-Michel Plan, allez-y, parce que c'est mon sujet du jour, je les vois tout à l'heure.
Hey, vous avez vu aussi que le débat juste d'avant qui est en train d'arriver sur l'Internet, c'est Il y a plein de gens, moi, dans mon métier premier, qui disent s'asseoir sur la net neutralité. Maintenant, on a encore mieux, on a les Facebook ou les Google, d'ailleurs, qui expliquent qu'on s'assied sur la vie privée. Ils l'ont dit, c'est l'actualité. Hein.
Google l'a dit. Non, Facebook, ils ont dit finalement, c'est pas intéressant pour nous, donc c'est ringard.
Le patron de Google a dit à un moment donné, je vous rappelle quand même que votre vie privée, si vous faites des trucs qui sont quand même pas tout à fait ce qu'il faut que ça soit, faites gaffe parce que quand même tout ça, c'est ouvert à tout le monde et que derrière, on va pouvoir communiquer, on va pouvoir... Il y a une transparence totale, donc effectivement... votre vie privée et vos données numériques, elles m'appartiennent aussi. Je peux en faire ce que je veux, je peux les publier, les mettre en relation, etc. Il l'a dit, ça a fait un bazar pas possible.
Il a dit, si vous ne voulez vraiment pas que ça se sache, le mieux, c'est de ne pas en parler sur Internet. Enfin, quelque chose de ce genre. Oui,
voilà. Ouais, et puis, sous-jacent à ça, donc, certains sont en train de mauvaise langue. Ce n'est pas des schtroumpfs grognons, là, c'est plutôt des schtroumpfs de mauvaise volonté. Ils sont en train de se dire que peut-être le fait de faire cette espèce de bruit médiatique avec les Chinois, c'est de se... racheter une bonne conduite ailleurs, surtout
ouais, sachant que 600 millions de dollars de revenus par an.
Non, c'est rien c'est... par rapport à ce que les autres sont en train de faire, c'est-à-dire les acteurs chinois, ils sont en train de les massacrer là-bas.
Non, c'est pas vrai. Il y a 3 ans, ils avaient 16% du marché Google. Aujourd'hui, ils en ont 30.
Non.
Si, si.
Les chiffres que j'ai, les informations que j'ai.
Et l'autre, c'est Baidu qui a consolidé le reste du marché. Mais c'est pas grave, c'est un débat d'experts. On est loin de la sécurité.
La vie privée.
Enfin, vous avez déjà fait du business avec des Chinois, vous connaissez la diplomatie à la chinoise. Quand vous lisez le communiqué de Google, on a l'impression qu'ils ont pris le manuel de diplomatie à la chinoise, qu'ils l'ont trempé dans de l'essence et qu'ils l'ont balancé sur la place Tiananmen. Bon, une dernière question à Tanguy, après j'en viendrai à Nina qui écoute tout ça avec religieusement, passion et beaucoup de patience, je trouve. Tanguy Mornier, quand on a préparé ce débat, vous m'avez dit qu'il faudrait quand même qu'on reste vigilante sur les incidences possibles de la loi. Alors, est-ce que c'est cette loi-là ou est-ce que c'est la loi, le législatif au sens large, les incidences possibles sur l'innovation?
Ben oui, ça va être une bonne transition pour Spotify, par exemple. Anita nous disait tout à l'heure qu'ils utilisent du pair à pair.
Anina,
pardon. Spotify utilise du pair à pair. Nous, on utilise du pair à pair depuis quasiment le début dans le logiciel libre. Et l'innovation, on l'a remarqué avec le logiciel libre, elle vient aussi d'acteurs non commerciaux dont l'objectif n'est pas immédiatement de faire de l'argent, mais d'abord de se faire plaisir. Alors, c'est le cas de Success Story aux États-Unis, par exemple, ou WordPress, qui commence par un étudiant, ou Drupal en Belgique. C'est d'abord des étudiants qui commencent à travailler sur un projet parce que ça les motive. Et puis, au bout d'un moment, ils s'aperçoivent que ce qu'ils ont inventé, c'est innovant et qu'en plus, ça intéresse. Et il y a des gens qui vont être capables de payer un service et de les faire vivre autour de ce logiciel libre. Donc, toutes ces lois qui commencent à s'accumuler, on a commencé par DAFSI, ajoute Adopi, on met l'Argel, peut-être la Lopsi, si elle est effectivement discutée en mars. C'est des freins supplémentaires aux gens qui innovent réellement. Et les gens qui innovent réellement, ce n'est pas forcément des gens qui viennent avec $1 million, qui, eux, pourraient se permettre de se payer une labellisation, de fermer leur code source, mais c'est aussi des passionnés, les développeurs, les hackers, les gens qui viennent regarder comment ça marche pour le plaisir, qui sont, eux, vecteurs d'innovation de manière énorme et qui, du coup, vont souffrir de ça. Et je pense que le logiciel libre qui avance le pair à pair, ou même si on regarde vraiment dans les fondamentaux, le web, HTTP, c'est basé aussi sur cet échange de code source. Après, ces types d'innovations qui sont désintéressées d'abord, donc qui ne peuvent pas se permettre des labellisations, ça donne des Spotify par exemple.
Ça donne des VLC, ça donne...
Ça donne plein de choses qui, après, sont vraiment générateurs de
valeur pour pas mal de monde.
Exact.
Oui. Sans VLC, il n'y aurait pas de vidéo dans la Freebox. Mais c'est un autre débat.
C'est pire que ça. Oui. J'en ai pour 15 secondes. Toutes les innovations fondatrices de ce qu'on utilise aujourd'hui et qui structurent nos usages du quotidien dans le numérique ont été inventées à des endroits où on ne les attendait pas.
C'est-à-dire des universités, c'est-à-dire...
C'est-à-dire les utilisateurs, l'Internet, le web, le mail, même le SMS. C'est pas des endroits où on a régulé l'innovation, où on a décrété, c'est là que ça se passe, tu es payé pour ça, tu vas sortir la killer application du siècle. Donc c'est l'innovation est par de l'autre côté. Et le fait d'avoir trop de freins à régalien, à un dispositif, et le fait de trop formater, moi je prie pour que on essaye d'éduquer à ça, et que nos législateurs soient bien inspirés, qu'ils fassent les bons choix, parce qu'à un moment donné, tu vas avoir une structuration de nos technologies qui vont nous entraîner dans un certain chemin. Le Minitel nous a entraîné à être très bon dans du 3615 ULA et à faire quelques noyaux vidéotextes, mais globalement, ça nous a empêché de voir peut-être l'évidence, et que l'évidence, c'était pas spécifiquement ce que Pouzin disait bien avant. L'évidence, c'était plus l'Internet que les modèles fermés et centrés sur eux-mêmes.
Oui, mais en même temps, je pense qu'il faut de loin, du côté de ça, on l'a bien vu avec la ceinture de sécurité, n'est-ce pas? Au départ, c'était improbable pour toutes les personnes de l'utiliser, et finalement, c'est aussi pour protéger une certaine population. Donc,
regardez, il y a 30 ans, tout le monde aurait fumé dans la salle.
Oui, c'est ça.
la loi, c'est clair, elle peut permettre, et en ayant des points, il faut des règles, il faut un code de la route, il faut des choses comme ça. Maintenant, la dérive de la loi, et à trop vouloir, je ne veux pas apparaître comme un asocial, voire un anarchiste, voire ce que vous pouvez imaginer, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir garder raison, il faut savoir garder une sorte d'esprit critique, et il faut toujours imaginer une sorte de plan B. Et dans les dispositifs et dans le numérique, c'est ce qui nous permet de rester en vie, cette affaire-là. Amener trop de certitudes, et je suis désolé d'avoir peut-être cette apparence-là, mais amener trop de certitudes à un moment donné, il y a un problème avec les pédophiles, la solution c'est le filtrage, il faut imposer un truc au FAI, donc c'est comme ça, etc., nous empêche de voir et d'imaginer des plans B qui pourraient peut-être tout aussi bien marcher, faire fonctionner un écosystème entier et qui ne pourrait ne pas poser de problème à l'existence d'un futur Spotify qui est ni plus ni moins que votre devenir numérique. Votre devenir numérique, il est sur votre capacité d'innovation, mais il est aussi sur le contrôle de votre propre vie numérique. Et ce truc-là, à trop vouloir aller trop loin et à tirer des ficelles sans en connaître les conséquences, ce que je suis en train de demander actuellement, ce n'est pas plus de débats comme certains. Comme mon camarade est Belpoint en ce moment est sur les débats. Moi, j'en commence à en avoir marre des débats. Je trouve qu'on en parle trop. Les débats, c'est toujours les mêmes qui parlent pour toujours les mêmes choses et c'est toujours les mêmes qui ne sont pas là ou qui n'écoutent pas et qui arrivent toujours aux mêmes solutions. Ce que je voudrais, c'est qu'on puisse mettre sur la table des pistes. Mon histoire de routeur Adopi dans lequel le citoyen derrière pourrait être un peu responsable de sa vie numérique et de son futur, j'ai pas vu un politique qui m'a posé la question derrière, tiens, ça pourrait fonctionner ce truc-là. J'ai pas vu derrière un gars, la dernière fois je crois que j'en avais parlé dans cette enceinte, il n'y en a pas un d'entre vous qui est venu dire, ça c'est une super idée, on pourrait créer une société, on pourrait faire un truc, un machin, il y a du business, c'est toi.
C'est moi, je crois. Ça doit être un réflexe.
Un business extraordinaire là-dedans.
Un business, oui, 49 euros.
C'est les futurs Legrand qu'on est en train de constituer.
Je pense que la base de ce que tu dis justement, c'est ça se résume à ce qu'on se focalise sur le problème et non pas sur le fait de trouver une solution positive qui part de l'utilisateur et non pas de haut en bas.
Mais parce que là, on a avec Spotify une solution qui vient de l'offre et pas juste de la loi. Chez vous, la musique est gratuite, on l'a dit, en tout cas, elle peut l'être. Elle l'est d'ailleurs dans le fonctionnement de base du
système. Oui, elle n'est pas pour nous, mais pour l'utilisateur, oui.
Oui, non, ça, je sais que vous la payez cher. On va y revenir, d'ailleurs. Et elle est parfaitement légale. Alors, vous n'êtes pas seul sur ce marché. Il y a évidemment le grand français qui est Deezer. Moi aussi, je peux faire des sondages au doigt mouillé. Il y a combien d'utilisateurs de Deezer ou de Spotify dans la salle? Levez la main.
On peut scinder en deux.
Alors, juste Spotify pour faire plaisir à Anina.
C'est pas mal.
Et maintenant, parmi vous, lesquels ont souscrit aux offres payantes, que ce soit celle de Deezer ou Spotify?
Pas mal, c'est pas
bientôt.
Mal.
J'ai offert une expression à Anina, c'est le PPS, le Proud Premium Subscriber. Moi, je donne 10 euros tous les mois à Spotify. En échange de quoi, j'ai de la musique chez moi, au bureau, sur mon portable, etc. Sur mon iPod, hein, ce qui transfixe les gens dans les avions qui disent « mais je ne comprends pas d'où vient tout ça ». Mais enfin, on voit bien le ratio gratuit-payant en même temps, Anina.
Oui, on n'est pas... C'est génial parce qu'au moins, on n'a pas posé la question ici encore, qu'est-ce que c'est, je ne comprends pas. On commence à être...
On peut retourner la salle, ils peuvent nous apprendre plein de trucs aussi. C'est déjà un modèle... Parce que, quand j'écoute de la musique gratuitement sur Spotify, chacune de mes écoutes va rapporter des choses qui se situent loin après la virgule, ce qui les a produits.
Justement, de sortir de ce débat de plutôt vers l'ARPU, ce qui...
L'ARPU, c'est-à-dire le revenu moyen par utilisateur.
Exactement, qui était un concept plutôt utilisé par les opérateurs, justement.
Télécom, ouais.
Et donc, parler d'accès à la musique, et cet accès, bon, c'est un coût pour l'utilisateur qui sera reversé par la suite à l'artiste. Donc, on espère que l'ensemble de revenus que nous allons avoir avec les recettes publicitaires pour la version free, les conversions vers le premium, les tickets concerts et le merchandising par la suite, l'ensemble va faire une revenu pour l'industrie de la musique qui sera nettement supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui.
Idéalement, au lieu des 2% qui sont passés au premium, vous aimeriez en voir passer combien ?
Beaucoup plus.
Non, mais pas. Imaginons qu'on soit en dessous de 100%.
Non, mais je pense que c'est difficile à dire parce que nous, bien sûr, on aimerait atteindre les deux chiffres et on constate dans certains cas qu'on s'y rapproche et que le retour utilisateur est suffisamment important pour pouvoir y arriver. Donc, on espère bien sûr qu'en France, ça sera le cas aussi.
C'est intéressant parce que est-ce que les habitudes de consommation sont différentes de pays en pays ? Est-ce qu'il y a par exemple des pays où on est beaucoup plus ouvert à l'idée du premium ou des pays où on y est totalement fermé ?
Oui,
vous avez une vue maintenant, Spotify est disponible en Suède, en Grande-Bretagne, en Allemagne,
en Espagne,
en France,
Finlande,
toujours pas aux États-Unis. Vous ne pouvez pas savoir le nombre d'Américains, c'est génial, vous êtes dans les conférences internet, tous les Américains quand on parle de Spotify disent oui, mais nous on n'y a pas accès, c'est pourri. Pour une fois ça se passe dans ce sens là, c'est pas parce que nous on leur dit oui mais regardez-moi Hulu, j'y ai pas accès, etc. etc.
Ouais.
Alors après il y a tous ceux qui vous appellent directement le fondateur en disant tu peux m'ouvrir un compte s'il te plaît, ou alors qui passent par un VPN, vous imaginez qu'ils payent un VPN pour accéder à un service payant, moi je trouve que c'est merveilleux, enfin en tout cas ça témoigne de la qualité du service. Vous avez une vue sur les différents pays, est-ce que ces habitudes sont différentes ?
Oui, absolument. Ça change beaucoup d'un pays à l'autre et ça dépend aussi du mode de vie, bien sûr, d'un côté, et puis de l'autre côté, des habitudes.
Ça se traduit comment ?
Oui, voilà. Je ne peux pas dévoiler le chiffre exact, mais si on part du nord au sud, voilà, les constats sont assez flagrants.
Mais encore. Il y a des pays qui sont.
Qui disait si moi je pourrais.
Est-ce que par exemple il y a des pays où on consomme plus de musique que d'autres ? Ça ne parle pas de gratuit payant.
Non. C'est ça qui est vraiment la puissance avec la musique, c'est-à-dire que tout le monde aime la musique et ça c'est quelque chose en, quel que soit l'âge, quel que soit. Le niveau de vie, etc. Donc, je pense que la musique et les vidéos, c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant parmi les contenus aujourd'hui.
Moi, évidemment, tous ceux qui ont essayé Spotify ont dû se poser la même question que moi la première fois. Alors, d'abord, il y a un constat, c'est « Waouh, ça va vite !» C'est-à-dire que moi, Spotify, sur mon PC, c'est plus rapide pour moi de lancer un titre sous Spotify que d'écouter un fichier MP3, par exemple, à travers iTunes. Et là, on se dit flûte, j'écoute de la musique en réseau qui va plus vite que la musique locale. Comment ça marche ?
C'est justement ce mélange entre la mémoire cache de l'ordinateur, le peer-to-peer, etc., qui fait que, et puis on a vraiment réussi à résoudre ce problème-là de la consommation de bande passante. Et puis, encore une fois, c'est une application, Spotify, ce qui change vraiment dans l'ergonomie et l'usage du service. Enfin, j'espère que tu es d'accord pour le dire. C'est ce que les utilisateurs nous disent souvent. Et voilà, je pense qu'il faut tester pour qu'on se rende compte, mais c'est assez puissant. Oui.
Je peux me permettre juste un point. C'est des bons dans le soft. On n'est pas payé pour faire la pub de Spotify ici. Alors j'attends mes accès parce que j'ai une famille.
Oui, parce que là, on est là, non ?
La différence, elle est simple. Pour moi, il y en a deux. Un, ça marche. C'est des bons dans le soft. Et ceux qui développent derrière, on le voit, vous l'utilisez, vous vous rendez compte que c'est des bons, point. Donc ça marche vite, c'est des bons dans le soft, ils savent ce qu'ils font. Et deuxièmement, ils n'ont pas fait à la mode iTunes dès le départ, c'est-à-dire qu'ils ne nous ont pas vendu et imposé de la musique à 64 kilos encodée comme du cochon. On en avait parlé la dernière fois que je suis venu. Vous avez un truc même gratuit, c'est encodé à 128 ou 256 kilos. Et quand j'achète, et là je suis prêt à l'acheter, 160.
160, ouais.
Quand je suis prêt à l'acheter, c'est du 320 et là on peut effectivement avoir quelque chose. Donc,
je dis ça pour faire plaisir à Tanguy Morley.
Quand on fait les bons choix, il n'y a pas photo et ça marchera.
Le constat qu'on fait aussi quand on l'utilise la première fois, c'est que tout à coup, et finalement c'est bien toujours de sortir d'une problématique par le haut, je le disais tout à l'heure, ça ringardise le peer-to-peer, c'est-à-dire que tout à coup, aller télécharger des MP3 en peer-to-peer dont on ne connaît pas ni la provenance, ni l'échantillonnage, ni la qualité, ni tout ça, enfin tout ça c'est ringard, ça clique, ça marche. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ça me remet presque même en question le principe de la propriété de ces fichiers, de ces supports et de ces contenus. C'est-à-dire que quand un contenu est, un, toujours accessible, de bonne qualité, que ce soit chez soi, en mobilité, etc., à coup, en mettre le détenteur, le garder, le sauvegarder, le passer de machine en machine quand on change, etc., tout ça, finalement, manque d'intérêt, quoi. Est-ce que finalement, la propriété, c'est pas ringard ?
Ça dépend du point de vue.
Vous avez l'opportunité de faire une déclaration à la Mark Zuckerberg de Facebook qui dit la vie privée c'est ringard. Aujourd'hui, c'est la propriété qui est ringarde.
Je pense que chaque utilisateur doit avoir, continuer à avoir la possibilité de faire, d'avoir le choix.
Ah oui, c'est vrai que j'oubliais, on peut acheter des titres à travers Spotify.
On a fait une intégration aujourd'hui avec un acteur externe, Seven Digital, qu'on a intégré complètement dans l'appli, qui fait qu'on peut acheter donc, les titres et les garder et les insérer dans la playlist. Sans sortir de l'application. Donc, c'est justement pour donner la possibilité de choix à l'utilisateur.
Quand le rapport Zelnick préconise l'émergence d'une sorte de carte jeune de la musique...
Je le savais.
Ah bah ouais, je fais mon boulot aussi. C'est-à-dire une carte que l'État subventionnera à moitié et qui permettrait d'acheter de la musique numérique. Ça vous concerne ou pas? Ou ça concerne que les sites qui, justement, font de l'achat à l'acte?
On va voir si
je vais pouvoir payer, mais enfin, moi, c'est un peu tard pour la carte jeune, mais eux pourraient payer leur abonnement Spotify avec.
Ça dépend où se limite l'âge, oui, 25, on m'a dit pour l'instant.
C'est pas mal, c'est un bon public, jusqu'à 25 en termes de musique. Hein.
Et il faut voir par la suite exactement le mot magique là-dedans, c'est le lobbying. Est-ce qu'on va réussir à convaincre le gouvernement que un service venu de l'étranger fera partie de ces cartes, je l'espère. D'ailleurs, Sarkozy a dit qu'il augmenterait la valeur faciale de la carte, oui. Atteindre 200 euros. Donc, ça veut dire que vous pouvez chacun d'entre vous avoir deux abonnements avec Spotify.
Moi je serais vous, je ferais un promo. Hein. Donnez-moi votre carte à 200 euros et vous avez deux ans d'abonnement. Quoi. Ça, par exemple. Et dans deux ans, d'autres solutions existeront.
Moi, je serais vous, j'ouvrirai une structure en France et je paierai mes taxes en France. Ce qui fait
on paye nos taxes en France.
Et bien donc, il n'y a pas de problème.
Donc, vous êtes un bon citoyen, contrairement à Google, Microsoft, Apple, tous ces gens qui sont établis en Irlande, au Luxembourg, comme tous les grands groupes français. D'ailleurs, on ne va pas rater de se mentir. Il faut quand même découvrir le fait que moi, j'ai acheté Windows 7 que j'ai depuis 2 mois. Bah, il a rapporté de l'argent en Irlande. Et iMac que j'ai depuis 6 semaines, il a rapporté de l'argent en Irlande aussi. Pardon ? Ah oui, mais bien sûr, c'est le marché, c'est comme ça, c'est normal, on a ouvert les frontières, c'est formidable parce que ça nous rapporte des choses aussi. Mais forcément, quand on centre le débat sur « regardez, Google, ils sont vilains, ils sont en Irlande », forcément, on tombe un peu de sa chaise parce que le taux d'imposition à 12,5% des sociétés, c'est pas Google qui l'a découvert en premier. Si on pousse la logique jusqu'au bout, est-ce qu'on peut imaginer un jour, alors qu'ils viennent de chez vous ou pas, un Spotify cinéma, livre de la télévision, ou est-ce que ce modèle-là, jusque-là, ne fonctionne qu'avec la musique?
Je pense qu'on peut tous imaginer à ce niveau-là.
Un Deezer, d'ailleurs. Tout le monde mange, mais je veux dire, un Deezer ou un Spotify du cinéma, forcément, ce serait séduisant.
Ça serait très, très puissant, je pense, mais...
ce serait ultra powerful, oui.
Nous, pour l'instant, on a pas mal de boulot à résoudre toute la musique d'abord, mais après, nous verrons ce qui est... on pourra faire pour les autres contenus.
Une dernière question au panel. C'est agréable de voir que les solutions viennent aussi de l'offre. C'est-à-dire que quand il y a de bonnes idées, elles résolvent les problèmes que la loi arrive toujours à résoudre. Pourquoi est-ce que, et la question va se reposer, pourquoi est-ce que la loi a du mal, alors c'est aussi une courbe d'apprentissage, j'imagine, à traiter de technologie. C'est quoi? C'est un problème de rythme. On l'a vu avec la loi DADVSI avant. La DADVSI, en 2006, elle adaptait en droit français une directive européenne qui datait de... C'est ça, autant dire que c'était le précambrière, quoi, quasiment. Je suis même pas sûr que j'avais du triple play à la maison. Est-ce que j'avais de la DSL à la maison en demi? Enfin, bref, c'est quoi? C'est une question de rythme. Le rythme législatif est très différent du rythme de la des cycles de la technologie.
C'est une large question et une très intéressante question. Merci de nous la poser.
Vous avez 15 secondes.
Souvent, il y a un débat en France en disant le problème, c'est la fracture. La fracture territoriale, il y a Paris, les régions, c'est les jeunes, les vieux. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est toujours les uns contre les autres. C'est un truc assez marrant. Et je me suis posé la question, mais ça vient d'où? Vous savez, c'est les barbares, les empereurs. Il y a toujours quelqu'un contre quelqu'un, cette affaire-là. Et dans la politique, effectivement, on voit qu'on essaye de figer la société un instant T. On prend une photo, puis c'est ce que j'appelle l'impulsion de la grenouille. Électriquement, on met de l'électricité dans la patte de la grenouille, ça bouge, et puis après, on passe au sujet suivant, et etc., etc. C'est très problématique. Je me suis dit, mais d'où vient cette espèce de fracture? Il y a bien, effectivement, deux façons de voir le monde. Et je me réfère souvent, moi, à mes vieux pères, ceux qui ont inventé l'Internet. Quand ils ont inventé l'Internet, c'est quand même là la transformation et la source. On est passé d'un monde que j'appelle network-centric à un monde user-centric. On est passé, alors, De Ronay le dit bien mieux que moi, lui, il parle de pair à pair. Malheureusement pour lui, on a traduit peer-to-peer, peer-to-peer, piratage, c'est mal. Mais c'est bien cela dont il s'agit. C'est un monde de pair à pair qui est moins empreint de certitude et de yaka faucon et qui est plus empreint de doute et de capacité à tester une solution, ça marche pas, on en fait une autre, etc. D'où si on veut ce monde, et qui est un monde profondément humain, il faut pas non plus avoir quelque chose qui est trop balisé, qui nous enferme trop dans un machin. Et ce qui pose problème souvent dans les législations, c'est que ce sont toujours les mêmes généralement qui sont écoutés. Alors on me dira, non, regardez, au secrétariat d'État du numérique, il y a Majescas qui a dû y faire un tour. Non, on a été invité à un dîner, on a écouté. Non, il y a un courant qui fait que ce sont les toujours mêmes qui sont capables d'être écoutés. Et c'est toujours même, ou plutôt à défendre, un ancien monde, un ancien modèle. Et la façon dans laquelle souvent c'est pensé, il n'y a pas de disruptif là-dedans. Quand on est entrepreneur et quand on est quelque part au sein d'essayer de contrôler sa vie, on est forcément un peu disruptif. On imagine des plans B, etc., etc. Là, on est plutôt dans un mode de pensée qui est plus network-centric qu'un monde user-centric. La conclusion là-dessus, c'est très simple. Vous avez presque la solution là-dedans. Moi, j'adore quand je viens ici, j'apprends toujours des trucs. Là, j'ai pris le papier qui était là. Vous avez dû tous l'avoir, ce machin-là, non?
Pas non.
Ce papier qui était là, c'est un cours d'avant, support de cours. Je vois vivre en accord avec ses valeurs.
Ah, c'est des besoins selon Maslow, d'accord.
J'en sais rien. Je suis dans une école d'ingénieur. On m'a dit que j'allais chez les
geeks, la pyramide
etc.
de Maslow. Moi, j'ai fait que du droit, hein, mais ça me parle quand même.
Je vois ça, vivre en accord avec ses valeurs. Je vois un truc, ça résume bien tout ce qu'on s'est dit. Ce qui détermine ma vie n'est pas ce qui m'arrive, mais la façon dont je réagis à ce qui m'arrive. Avoir chacun votre propre réponse à ta question. Mais la phrase qui va vous guider à la réponse, elle est ici.
Écrivez bien, vous avez 3 heures.
Du coup, je vais peut-être commencer la disserte. Moi, je ne suis pas totalement d'accord sur... toutes les lois qui ont été pondues ne sont pas toutes mauvaises. On a une...
Personne n'a dit ça.
Non, d'accord.
On dit juste que le législateur a du mal à apprivoiser la chose technologique.
Ça dépend. Si on pense à la LCEN, par exemple, il me semble que c'est un bon compromis qui a été fait.
Ouais.
Par contre, je suis d'accord, la DAFSI...
regardez, les DRM. Exactement, regardez, la DAFSI était quasi exclusivement centrée sur les DRM. Vous remarquez qu'on n'en a pas parlé des DRM. Les DRM sont quelque chose qui est quasiment sorti du débat.
Ouais, enfin, quand on achète un DVD et qu'on est obligé de regarder la 20e fois la même pub...
Vous remarquez que c'est plus le centre du débat, on est plutôt passé sur le filtrage.
Oui, je pense que ça embête quand même toujours les utilisateurs de regarder toujours la même publicité lorsqu'ils regardent leur DVD, alors qu'ils ont quand même acheté un film qu'ils ont envie de voir quand,
enfin, de voir tel chapitre immédiatement et pas de regarder pour la énième fois la pub Disney.
J'ai dit une fois dans une émission, c'est assez horripilant d'acheter un DVD. Pas d'acheter un DVD, ça c'est très bien. Mais, ou un Blu-ray, ça marche aussi. Mais et d'avoir en introduction une pub sur « Attention, c'est mal de pirater les films ». Non, mais je l'ai acheté, là, ça n'a pas de sens. D'autant qu'on imagine que dans la version pirate du même DVD, le clip aura été coupé. Donc, en termes de pédagogie, à avoir, c'est pareil quand on vous inflige ce genre de choses en salle. J'ai déjà payé les 10,50 euros, là, ça va, c'est fait, voilà, bref, continue.
Du coup, il y a cette, la DAFSI qui met de la technologie dans la loi. Mm-hmm. Adopi, c'est pareil, un logiciel de sécurisation, c'est de la technologie dans la loi. Pargel, qu'est-ce qu'on a ? Du filtrage de logiciels, c'est pareil, c'est la technologie dans la loi. Et la LOPSI, c'est aussi ça sans doute le problème. C'est que le problème du législateur, avec la LCEN, il y avait eu ce travail consensuel parce qu'ils avaient essayé de prendre un petit peu de recul et justement de ne pas mettre de la technologie, pas mettre quelque chose de périmé dans la loi. C'est quelque chose qui me semble hyper important, c'est que les bons projets de loi, on s'aperçoit, ils font abstraction de la technologie et ils s'occupent justement des usages, ils s'occupent de l'impact dans la société que ça a. Et
si on met la question de compétence aussi, je veux dire.
Mais non, justement, c'est pas une question de compétence. Si on met la technologie dans la loi.
Il n'y a pas assez de poids de la part de dans le gouvernement ou des personnes présentes qui ont une compétence technique.
Ben, justement, si on met pas la technologie dans la loi. Du coup, le problème de compétence ne se pose pas.
C'est-à-dire qu'on exprime quoi ? Des buts, des schémas fonctionnels en disant c'est ainsi que les choses devraient marcher.
Voilà, avec la LCEN.
Et on laisse aux professionnels et aux technologistes le choix des moyens, qui d'ailleurs vont évoluer dans le temps.
Bah, avec la LCEN, le fait de prendre un petit peu de recul et de s'apercevoir qu'il y a des éditeurs et des hébergeurs, mm-hmm. et plus du tout dans la technologie. On s'en fiche de sur quel serveur c'est hébergé, on s'en fiche si c'est effectivement le serveur qui héberge ou c'est quelque chose, une solution virtualisée, je ne sais pas trop quoi, on s'en fiche. L'important, c'est qu'on a identifié ces deux éléments-là qui n'ont rien de technologique, qui vont durer même si on change de technologie. Et dans ce cas-là, le débat peut être beaucoup plus apaisé. On n'a pas de problème de « ah ben moi je suis désolé, je ne suis pas compétent, donc mes experts techniques me disent que OpenOffice c'est un bon pare-feu ». Donc, dès qu'on fait abstraction de la technologie, tout de suite, on se sent mieux et tout de suite, c'est plus efficace. Et il me semble que ce serait la bonne manière de le faire.
Bien, on est déjà très en retard, mais on va quand même prendre le temps des questions, si vous en avez. Une question au fond. Oui, faites. Merci, Corinne. Présentez-vous.
Bonsoir. Bonjour. Aurélien Bock. Bonjour, excusez-moi, je suis un peu décalé.
Je sais, ça a été long, mais...
J'ai bossé cette nuit.
Voilà. Ouais, je comprends.
Je suis ici au nom de la Ligue au débit. Vous connaissez
le nom de
la Ligue au débit.
Ah oui, la Ligue au débit. Oui,
les droits vrai. Des internautes. Vous regrettiez tout à l'heure le fait du manque d'actualité par rapport à Adopi pour nourrir d'aujourd'hui. Bon, il n'y a que deux décrets d'application qui sont passés sur les 12 ou les 15 à peu près, donc on est encore loin de la mise en place.
On est un peu dans l'attente des détails, oui.
En ce moment, il y a quand même les accords ACTA dont vous n'avez pas du tout parlé.
Non, c'est vrai.
Et je pense que
c'est. Mais parce qu'alors là, c'est là aussi, on n'est même pas dans l'attente. C'est-à-dire qu'on est dans le
secret.
Dans le schwarz complet. Les accords ACTA, ce sont des accords mondiaux sur le copyright qui concernent les États-Unis, l'Union européenne, la Corée, le Japon, etc., etc., et qui sont négociés pour l'instant à porte close. Et on attend d'avoir ne serait-ce qu'un brouillon du projet tel qu'il est aujourd'hui, parce que de fait, il aurait une portée beaucoup plus générale qu'une loi purement française, et des aspects techniques qui mériteraient, là encore, à mon avis, qui ressembleraient peut-être au même, d'ailleurs. Et de fait, non, c'est un sujet. Moi, j'essaie de trouver même des invités pour faire des émissions sur ACTA, mais personne n'a vu. C'est l'homme qui a vu l'ours. Donc, c'est un peu comme la tablette Apple. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut s'en parler pendant toute la journée, mais personne n'a vu. Donc,
il y a quand même certains documents qui ont filtré, sûrement d'autres qui vont arriver bientôt.
Il y a de fait des espèces de lignes générales sur le filtrage, sur tout ça.
Voilà, notamment sur le filtrage. En fait, ma question, c'était au débat, est-ce que le fait qu'on va avoir une certaine internationalisation des moyens notamment de filtrage, et ça va aller jusqu'au fait où si vous arrivez à un aéroport dans un pays qui a signé l'accord et que vous avez de la musique téléchargée dans votre ordinateur, on pourra ouvrir votre ordinateur, regarder, ah, vous avez des contenus téléchargés, vous ne rentrez pas sur le territoire, on vous met en garde douanière, etc.
Bah, c'est-à-dire que tout à coup, on étendrait les pouvoirs des douanes jusqu'à des contenus numériques. Alors que jusque-là, on ouvre votre valise et on regarde si vous n'avez pas 4 cartouches de cigarettes au lieu d'une, ou une montre Rolex qui ne vient pas de la bonne usine. Enfin, évidemment, ouais, c'est le
titre de Madonna que vous avez téléchargé. Donc, est-ce que l'internationalisation des moyens ne va pas rendre la réglementation incontournable? Est-ce que ça ne va pas la rendre vraiment beaucoup plus efficace? Et c'est, bon, pour nous, c'est une forme de censure. Après, à chacun de voir.
Dans l'application, on a déjà un précédent. C'est le précédent EUCD. C'était également un traité international qui a été après appliqué dans une directive européenne et après qui a été appliqué dans le droit français. Maintenant, Adopi, on peut en dire ce qu'on veut. Il y a quand même une victoire qui est la décision du Conseil constitutionnel. Et je pense que ça cadre déjà bien les choses. On ne peut pas limiter la liberté d'expression sans intervention du juge. Et donc, à partir de là, les accords internationaux vont peut-être avoir lieu. Ça ne va peut-être pas nous être très favorable. En termes de liberté d'expression, il me semble que ça a bien cadré les choses. L'application de l'ACTA sur le domaine de la liberté d'expression, il me semble qu'on ne risque pas grand-chose.
Juste un détail là-dessus. L'intervention du juge, on s'est battu, on a été nombreux à se battre pour que ça existe. Ça n'y était pas avant. Si on avait fermé les yeux, s'il n'y avait pas eu de conscience, il n'y avait pas l'intervention du juge. Alors, ils vont nous faire un juge automatisé à la mode péage, mais rappeler nos droits, rappeler les règles, ça paye toujours. Ça, c'est la première chose. Il y a une deuxième victoire aussi qui est très intéressante sur l'Adopi, c'est que plus rien ne sera jamais comme avant. Aujourd'hui, tout ce que nos députés disent dans le Cénacle, dans le machin, là, où tout le monde parle, c'est maintenant retransmis sur Internet, il y a une mémoire numérique, on peut savoir qui a voté quoi, qui a été pour, qui a été contre. Certains se sont ridiculisés jusqu'au point où, je vais parler à titre personnel, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent raisonner comme ça, jamais je ne voterai plus pour ce genre de personnes qui se sont ridiculisées. Et je ne fais pas de débat gauche-droite, hein. Ce n'est pas un débat. Hein. Il y a aussi bien des gens qui ont dit des bêtises à gauche qu'au centre qu'à droite, et il y a des gens qui se sont très bien comportés aussi bien au centre qu'à gauche qu'à droite. Il y en a qui sont sortis grandis, il y en a qui sont sortis plus que diminués sur ce sujet-là, et ça c'est aussi une victoire. On a fait rentrer la technologie dans le débat du quotidien. C'est une petite victoire, mais surtout que derrière, on a intéressé des gens et aujourd'hui, tout ça, on en trouve des traces numériques. Et ces traces numériques, on peut en faire des rapprochements, on peut en faire des choses rigolotes et on peut en faire des choses très sérieuses. Et ça, ça participe à la responsabilité de tous, je pense.
Et c'est vrai que mon intervention était peut-être... c'est pas parce que je pense que ce sera, en termes de liberté d'expression, c'est relativement sécurisé, qu'il ne faut pas continuer à suivre ça. À l'April, on avait participé à la création de la mémoire politique qui est maintenant hébergée par la Quadrature. Le fait que on est interpellé sur l'ACTA des institutions européennes, il faut bien sûr être vigilant. Maintenant, on a des arguments supplémentaires juridiques et en plus, on commence à les maîtriser relativement bien puisqu'on en discute à longueur de temps entre nous. C'est plutôt bien.
Bien, merci beaucoup. Je suis désolé, plus d'autres questions, mais vous êtes libre d'interpeller les membres du panel en dehors de ce cénacle. Et on a un gros quart d'heure de retard déjà. Un mot peut-être, Nicolas ?
Écoutez
ça religieusement, c'est un garçon très calme, ça va, ça va très bien.
Donc d'abord, je voulais vous remercier parce que c'est un débat qui nous a quand même beaucoup apporté. Je pense que beaucoup de nos étudiants étaient assez informé sur le fond, et pas forcément sur tous les détails, et pas forcément toutes les implications. Je pense qu'on a vu la difficulté, en fin de compte, de cette situation, qui est quand même quelque chose de tout à fait paradoxal lié au numérique. C'est toujours cette problématique d'à la fois ouvrir des libertés tout en empêchant toutes les dérives. Et on voit bien que ça reste un problème qui est récurrent et qui va certainement occuper encore à la fois le législateur et nous, en tant que fournisseurs de technologie, pendant de nombreuses années. Encore merci beaucoup à tout le monde. On espère vous revoir prochainement.
Avec plaisir. Merci à vous.
Oxyradio, la radio la plus jeune du web.